Bonjour! Bonjour tout le monde! Bonjour les amis, bonjour, comment ça va? Bienvenue, tout ça, wesh alors, wesh alors. En plein combat contre la dépression, mais ça va. Allez, courage, courage, je suis avec toi. Je sais ce que c'est, courage. Bien le bonjour! J'espère que ça va. En ce jeudi, je vous rappelle qu'il n'y a pas Baxit hein, aujourd'hui. Hein. Ça va, hein? Vous avez déjà vu un. Un backseat plus plus golden extra Big Mac mardi. Donc ce jeudi, c'est détente. Est-ce qu'on pleure tous ensemble? Il n'y a pas de quoi pleurer. Y a pas de... Excellente émission hier. Ouais, c'était trop bien. C'était moult bien, ouais. J'essaie de m'en remettre de cette soirée. Bon bah merci d'avoir été là en tout cas, hein. Merci d'avoir regardé Backseat mardi. C'était une très très chouette soirée à organiser. Super content que tous les gens aient répondu présents quand on les a invités pour venir et tout, c'était trop bien. Dommage que Backseat n'a pas traité les élections US. Ouais, je suis désolé. Je suis absolument désolé, on aurait dû faire une émission spéciale élection américaine. Navré, navré, navré. Vous avez fini à quelle heure? Moi j'ai fini à 2h parce que le lendemain j'avais l'émission avec la FRM sur le cancer. Et donc il fallait absolument que j'aille dormir. Et les autres, ils ont fini à 5h, je crois. Enfin, l'émission s'est terminée à 4h, mais le staff et tout, ils ont fini à 5h, 6h. American Psycho. Les questions écrites des députés sont répondues en combien de temps en général? Trop longtemps. Ça prend un temps fou, ça prend plusieurs mois. Et parfois, tu as des changements de gouvernement en cours de temps. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi les élections américaines mardi, Kamala Harris a été élue 47e présidente des États-Unis d'Amérique. Première fois qu'une femme obtient ce poste. Une élection donc qui aura été marquée par une campagne très dure avec son opposant Donald Trump qui a reconnu sa défaite immédiatement après l'annonce des résultats. Le Parti démocrate donc qui maintient le pouvoir à la Maison Blanche. Il y a encore des discussions pour savoir s'ils vont conserver le Congrès et dans quelles conditions. Voilà. Qu'est-ce que les joueurs disent? De toute façon, c'était écrit, hein, moi je l'avais dit. Hein. C'est Kamala qui va gagner. Hein. C'est un stream Uchronie. Ouais, c'est ça. On maintient l'Uchronie. On écrit l'Uchronie. Et si Kamala Harris avait gagné l'élection? Qu'est-ce qu'il serait basé? You are fake news. Ouais, je fake news, je fake news. C'est news en PLS. Ah ouais, c'est news. C'est news, c'est ému. De l'élection de Kamala Harris, hein, ils étaient pas contents. Bizarrement, personne crie à la fraude cette fois-ci. Bah non, c'est les républicains qui crient à la fraude. De toute façon, les élections, c'est pas compliqué. C'est soit les républicains gagnent, soit les élections sont truquées. Franchement, c'est pas compliqué, hein. Pourquoi faire des nuits blanches élections alors qu'on a toujours les résultats vers 7h du matin? Bah parce qu'on a envie de les suivre, les résultats. Elle est con, ta question. Pourquoi regarder un match de foot alors qu'on a le résultat à la fin du match? Bah oui. Oui. T'as pas bien écouté, alors t'as plein de démocrates qui crient à la triche. Ah ouais, il y a des démocrates qui accusent de manipulation électorale? C'est dans quels États? Apparemment, même en nombre de voix, Donald Trump est devant. Ah, il a gagné le vote populaire cette fois-ci? Donald Trump a remporté le vote populaire? Mmh. 51%. 5 millions de plus. Impressionnant. Il y a une grande affiche de Pascal Praud sur un arrêt de bus pas loin de chez moi. À chaque fois, je manque de me payer le trottoir. Est-ce qu'il y a des traces de rouge à lèvres sur l'affiche pour le remercier pour tout son travail? C'est surtout dans le Wisconsin, la Pennsylvanie et le Michigan qui sont des swing states, oui, effectivement. Les écarts des voix sont très courts, jusqu'à seulement 30 000. Donc les démocrates voudraient recompter. Bah, ils ont raison de demander un recomptage. Est-ce que l'élection n'a pas été perdue par les démocrates à cause du retrait trop tardif de Biden? Si, peut-être. Si, peut-être. Le retrait tardif de Biden, empêtré dans sa vieillesse. Le mandat mitigé aussi de Joe Biden. Et puis l'influence des milliardaires, comme Elon Musk aussi, hein. Ah, on va pas faire l'économie de l'analyse, du fait que, Elon Musk a mis énormément d'argent dans l'élection de Donald Trump. Et pas seulement d'argent, aussi d'énergie via Twitter. Alors après, à quel point est-ce que les Américains lisent Twitter, etc., je sais pas. C'est pour ça qu'il faut toujours se méfier un peu avec ça. Faut voir l'influence de Twitter. Ça dépend qui utilise Twitter, quoi. Je sais pas. Voilà, je sais pas. Est-ce qu'ils étaient prêts à élire une femme? Alors il y a toujours la question de savoir est-ce que effectivement les Américains sont prêts à élire une femme, c'était la question qui s'était déjà posée avec Hillary Clinton. On a vu aussi que dans les votes, mais ça on s'en doutait, il y a un gender gap. Pardon, il y a un gender gap assez important. Femme noire. Ouais, t'as raison, maman. Ouais, femme noire. Il y a un gender gap assez important. Voilà, on sait que Donald Trump a été élu par des hommes et Kamala Harris a remporté la majorité du vote féminin. Pas tout le vote féminin, mais la majorité. Où est-ce qu'on peut retrouver la proc de la semaine de la chaîne sur Threads? Je poste la prod de la proc de la semaine sur mon profil Threads le lundi. Est-ce que tu es intéressé pour aller sur Blue Sky? Non. Pas en l'état actuel des choses. J'ai l'impression, en entendant certains Américains, que ceux-ci idéalisent l'économie durant la période Trump, qui ne pouvait pas être comparée à celle de Biden, grévée par le coronavirus. Oui, alors ça, c'est toujours la question du décalage de phase. Qui est responsable de la situation dont souffrent les personnes? Est-ce que c'est l'actuel président? Est-ce que c'est son successeur qui hérite de la situation? Le coronavirus s'est déclenché pendant la fin de la présidence de Trump. Et c'est effectivement Joe Biden qui a subi le pire du contre-coup économique. Un peu comme Macron et Hollande avec la courbe du chômage. Oui, voilà, c'est ça, c'est un peu toujours pareil. La politique de Hollande est parvenue à infirmer la courbe du chômage et c'est Emmanuel Macron qui en tire les bénéfices. Mais c'est oublier les actions prises par Emmanuel Macron dès le début de son mandat, notamment sur le droit du travail, les ordonnances travail, etc. Mais c'est effectivement une discussion qu'on a à chaque fois, à chaque élection, hein. Quid des stars hollywoodiennes qui vont quitter les USA, qui pour les accueillir? Il y a des stars hollywoodiennes qui ont annoncé qu'elles allaient quitter les États-Unis? J'ai pas suivi ça. Est-ce qu'il peut y avoir un spoil system à l'américaine en France avec les hauts fonctionnaires, les ambassadeurs et tout le tintouin? Non, ça fonctionne pas de la même manière. Le spoil system aux États-Unis, c'est effectivement le fait que quand il y a une alternance politique, la nouvelle équipe arrivée au pouvoir remplace plusieurs centaines de hauts fonctionnaires qui sont à la tête d'administrations et d'organes divers et variés. C'est pour ça qu'on ne parle pas de gouvernement aux États-Unis, on parle d'administration. L'administration Trump, ce sont plusieurs centaines de hauts fonctionnaires nommés par Trump qui dirigent et qui pilotent, etc. Ça ne fonctionne pas tout à fait de la même manière en France. En France, on a une équipe gouvernementale qui est responsable devant le Parlement et les hauts fonctionnaires n'ont pas vocation à changer entre les quand il y a une alternance politique. Au contraire, même la fonction publique en France incarne aussi la continuité de l'État. Évidemment, ce serait se leurrer que de croire que tous les hauts fonctionnaires sont totalement neutres. Au contraire, il est même assez bien accepté en France que quand il y a une alternance politique, un certain nombre de responsables de responsables de haute administration sont amenés à changer avec le nouveau gouvernement. Ça peut être le directeur général du Trésor, ça peut être évidemment le directeur général de la police nationale, le DGPN, ça peut être voilà, un certain nombre de personnes, directeur général de l'enseignement scolaire, à l'éducation nationale, etc. Voilà, il est pas rare qu'un ministre, lorsqu'il arrive à son poste, change le représentant de la haute administration à laquelle il a affaire. La justice, alors au ministère de la justice peut-être, mais les magistrats, eux, sont indépendants en revanche. Les magistrats ne sont pas nommés par le pouvoir politique. Il y a un système interne à l'administration de la justice pour les carrières des magistrats. Est-ce que les secrétaires d'État sont l'équivalent de nos ministres? Alors, aux États-Unis, Secretary of State, c'est un poste et un seul qui, on dirait pas comme ça, mais en fait, c'est le ministre des Affaires étrangères. Le Secretary of State des États-Unis d'Amérique, c'est le responsable de la diplomatie américaine. Donc, c'est le ministre des Affaires étrangères. On l'appelle Secretary of State. Alors que nous, en France, secrétaire d'État, c'est un poste gouvernemental, sous-ministre, ministre délégué. Voilà. Président de la République nomme les préfets. Les préfets sont nommés en Conseil des ministres par décret. Et c'est surtout le ministre de l'Intérieur qui s'occupe de la nomination des décrets, des préfets. Mais quand les préfets, quand un gouvernement arrive, il change pas les préfets, hein. Préfets, ils sont en poste, hein. Les préfets sont les représentants de l'État dans les territoires, pas les représentants du gouvernement. Ils sont nommés par le gouvernement, mais ils ne sont pas les représentants du gouvernement. Tu peux révoquer un préfet s'il a fait n'importe quoi. Oui, bien sûr. Oui, un préfet, c'est révocable. C'est un fonctionnaire. Hein. Est-ce que le vice-président des États-Unis a des responsabilités en dehors de si Potocan, je le remplace. Ouais, en l'occurrence, aux États-Unis, le vice-président a quelques responsabilités, alors assez limitées, hein, attention. Il ne seconde pas le président des États-Unis et tout. Il a un pouvoir d'influence, clairement, au sein de l'appareil. Il peut, voilà, il peut parler, il peut discuter, il peut pousser des dossiers, etc. D'un point de vue fonctionnel, le vice-président des États-Unis, à ma connaissance, a assez peu de pouvoir. Il a des présidences de certaines séances de la Chambre des représentants ou du Congrès. Mais c'est pas énorme. Après, il peut y avoir des présidents des États-Unis qui donnent à leur vice-président quelques responsabilités. Alors, c'est pas inscrit dans la Constitution des États-Unis d'Amérique, mais le président peut dire, je souhaite que tu t'occupes tout particulièrement de la politique en matière de ça. Je veux que tu avances sur ce dossier et on mettra en place la législation, etc. Donc, il peut avoir un travail. Et puis, d'une manière générale, le vice-président des États-Unis a un travail, un rôle de représentation. Voilà, il représente le président. Donc il est invité à prendre la parole, à plein d'occasions, à se déplacer à l'étranger, rencontrer des gens, etc. Si le président des États-Unis meurt en exercice, le vice-président le remplace, mais ça dure combien de temps? Est-ce que c'est genre 2 mois comme en France, le temps de refaire des élections? Pas du tout! Pas du tout. Aux États-Unis, si le président de la République, le président américain, pardon, meurt, le vice-président le remplace immédiatement. Il prête serment immédiatement. Je vous rappelle que quand John Fitzgerald Kennedy a été assassiné, son vice-président a prêté serment. Il s'appelait comment? C'était Johnson? C'était Johnson, a prêté serment dans l'avion. Ford, c'était Ford. Autant pour moi, c'était Ford. T'es sûr? Oui, sans doute. Johnson, Ford, je sais plus. Bref, son vice-président a prêté serment dans l'avion et il était accompagné au moment de sa prestation de serment. Vous avez tous vu cette photo très célèbre. Il a la main sur la Bible et tout, la main levée, il jure machin, il prête serment. Il y a Jackie Kennedy qui est à côté de lui. Jackie Kennedy, qui est l'épouse de JFK, qui vient d'être assassinée. Et au moment où Johnson prête serment, Jackie Kennedy a encore le sang de son mari sur ses vêtements. Je ne sais plus si on le voit sur la photo. Bon, j'ai pas trouvé mieux. C'est cette très célèbre photo dans l'avion. C'est le jour même de... C'est dans les heures qui ont suivi l'assassinat de JFK. Johnson prête serment, Jackie Kennedy est à côté de lui, et je crois que c'était sur sa jupe, là on voit pas sur le cadre de la photo, mais elle a encore le sang de son défunt mari. Du coup, il a un mandat à son tour pour 4 ans ou bien il va jusqu'à la fin du mandat d'origine? Ah non, non, il va jusqu'à la fin du mandat d'origine. Non, ça t'offre pas des crédits supplémentaires. Hein. J'aimerais comprendre comment les Américains peuvent être amenés à élire Donald Trump qui a des problèmes avec la justice, etc. Si c'est différent de notre culture, je suis dans l'incompréhension. Écoute, c'est pas si différent de notre culture. Hein. Y a une forme de mansuétude politique pour les déboires judiciaires des politiques qu'on aime bien. Voilà. Quand un politique qu'on aime bien a des problèmes judiciaires, on lui en tient pas rigueur. On dit au contraire qu'il est victime d'une machination, d'une cabale. Ça n'entache pas la ferveur ou à minima le soutien que tu as envers un politique. La condamnation de Jean-Luc Mélenchon ne lui a pas fait perdre des voix. Hein. Voilà, il y a des gens qui votent pour lui. Bon, voilà. Balkany a été réélu maire de Levallois. Alors, c'est pas valable pour tout le monde, hein, évidemment, c'est pas valable pour tout le monde. Ça dépend aussi des camps politiques. Comment il s'appelle l'ancien coordinateur de la France Insoumise, Adrien Quatennens, condamné pour violence conjugale. Bon, l'électorat de gauche est assez sensible à la question des violences sexuelles et sexistes. Et une bonne partie n'avait pas trop l'intention de lui pardonner. Voilà. Donc tu vois, ça dépend aussi, voilà, ça dépend du délit, ça dépend de quoi, etc. En l'occurrence, Donald Trump n'a visiblement pas payé le prix de ses déboires judiciaires puisque ses partisans adhèrent à la théorie selon laquelle c'est une cabale menée par les démocrates. Trump n'a rien fait de mal. On le soutient quoi qu'il en soit. On vote contre le système, etc. Voilà. Voilà la réponse à ta question. Trump n'est pas au même niveau politique que Katniss. Il est à la tête de proue de son camp. Si je puis me permettre, Katniss l'était aussi à l'époque. Il était coordinateur national du parti. Bon, bref, peu importe, je suis d'accord avec toi, je vois ce que tu veux dire. Trump est président des États-Unis d'Amérique. Adrien Quatennens, il était député du Nord. C'est pas comparable, je te l'accorde. Mais pour autant, ce que je dis reste valable. Les partisans de Donald Trump, les partisans des politiques, défendent les politiques avec qu'ils soutiennent. Est-ce qu'il peut se pardonner lui-même pour ses condamnations? Alors effectivement, tu as raison, c'est un dossier intéressant qui a été soulevé par plusieurs journalistes, la question du pardon. Aux États-Unis, il y a un système, alors tu me diras, on a un système similaire en France avec le droit de grâce présidentiel. Voilà. Le président de la République a le pouvoir de gracier. Aux États-Unis, il y a aussi le pouvoir de gracier qui s'appelle le pardon, ça s'appelle. Et c'est un mécanisme juridique dont on s'interroge pour savoir si Donald Trump pourrait s'en servir pour se pardonner lui-même. On sait qu'il peut pardonner des proches, y compris par avance, mais lui-même... Il va gracier les patriotes de l'attaque du Pentagone. Il a annoncé effectivement pendant la campagne Donald Trump qu'il avait l'intention d'utiliser son pouvoir présidentiel pour faire sortir de prison les personnes qui ont été condamnées et qui sont actuellement en prison pour l'invasion du Capitole en 2021. Après, il n'a pas besoin de faire ça, il pourra bientôt nommer deux juges à la Cour suprême pour avoir une majorité absolue. Alors il a déjà une majorité absolue à la Cour suprême, Donald Trump. Pas besoin de nommer de nouveaux juges à la Cour, de nouveaux juges pour ça. Il pourra toujours en nommer davantage, mais il a déjà une majorité large. Et par ailleurs, ce que tu dis n'est pas tout à fait juste, puisque ce n'est pas les juges à la Cour suprême qui prononcent les condamnations en première et en deuxième instance des gens qui ont commis des délits. La Cour suprême, c'est la Cour qui est saisie des recours en dernière instance. Mais... Donc ça peut être utile, par exemple, pour limiter le droit à l'avortement, comme l'a déjà fait la Cour suprême, à majorité républicaine désormais, avec le retour sur l'arrêt Roe versus Wade. C'est la Cour d'assises ? Non, c'est la Cour suprême. La Cour suprême, alors en France, on a des cours suprêmes qui ne s'appellent pas comme ça, on n'utilise pas le mot Cour suprême en France. On a la Cour de cassation. Qui est la Cour suprême de l'ordre judiciaire, et on a le Conseil d'État, qui est la Cour suprême de l'ordre administratif. Quand vous êtes condamné en première instance, que ce soit, disons au pénal pour être le plus simple possible, pour un délit, un crime, vous êtes condamné en première instance, vous avez le droit de faire appel, ça c'est un droit garanti, donc vous pouvez vous pourvoir en appel pour demander un autre jugement. Et si vous êtes condamné à nouveau en appel, vous pouvez vous pourvoir en cassation, comme on dit. Vous allez vous pourvoir en cassation. Sauf que cette fois-ci, ce ne sera pas un procès à proprement parler, puisque la Cour de cassation n'est pas là pour juger sur le fond de l'affaire. Là, vous avez déjà été jugé deux fois. C'est terminé. La Cour de cassation va juger en droit. Elle va vérifier si le droit a bel et bien été appliqué tout au long de la procédure qui vous a condamné. Voilà. Et c'est seulement ça qu'elle va rendre. Si la cour de cassation casse l'arrêt de condamnation de la cour d'appel qui vous a condamné, ça ouvre la possibilité à un nouveau procès qui pourrait éventuellement vous permettre de sortir de prison. Ce serait quoi l'équivalent de l'Assemblée nationale aux États-Unis ? Oh, pour le coup, c'est assez simple. L'équivalent de l'Assemblée nationale aux États-Unis, c'est la Chambre des représentants. The House of Representatives. La Chambre des représentants, c'est l'équivalent de notre Assemblée nationale. Le Sénat, c'est l'équivalent de notre Sénat. Je vous le fais très vulgarisé parce que je vous rappelle que nous sommes une république unifiée alors que c'est une république fédérale. Pas tout à fait pareil, mais dans l'idée, voilà. La particularité aux États-Unis, c'est que la Chambre des représentants et le Sénat siègent dans le même bâtiment, alors que nous, on les a séparés. à un arrondissement d'écart. On a le palais Bourbon et le palais du Luxembourg. Eux, ils ont un seul bâtiment qui s'appelle le Capitole. Et quand vous rentrez dans le Capitole, vous prenez à droite, vous avez la Chambre des représentants, vous prenez à gauche, vous avez le Sénat. Voilà. Pour le coup, c'est un système britannique, hein, c'est un système classique de la common law. Vous retrouvez ça à Westminster. Si vous n'avez jamais visité Westminster, visitez Westminster la prochaine fois que vous allez à Londres. C'est pareil, t'as un grand couloir, c'est absolument magnifique, hein. À droite, t'as la Chambre des Lords et à gauche, t'as la Chambre des Communes. Après, t'avais pas dit que l'Assemblée nationale avait le droit de se réunir où bon lui semble? Si, absolument. Je l'ai dit et je le maintiens, l'Assemblée nationale siège là où elle veut siéger. Elle n'est pas du tout prisonnière du Palais Bourbon. Il se trouve que le Palais Bourbon, c'est le lieu où elle siège, parce que bon, c'est pratique. Voilà, c'est que ça fait un siècle que c'est là, donc on utilise ce bâtiment-là. Mais si demain le Palais Bourbon crame, ça peut arriver, hein, un incendie, bon, on est dans la merde, on ne peut pas siéger au Palais Bourbon. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale peut siéger ailleurs. Elle peut aller à la Sorbonne, c'est juste à côté. Il y a des amphis, elle peut en emprunter un. Elle peut aller à la Maison de la Chimie, c'est juste à côté. Il y a un grand amphithéâtre, une grande salle de conférence. Je vous rappelle que la première réunion historique de l'Assemblée nationale en France, c'était dans une salle de sport. On a appelé ça la réunion du jeu de paume. Mais bon, les mecs étaient dans une salle de sport, quoi. On s'en branle de la salle où ils sont. Il n'y a jamais eu d'inondation au Sénat ou au Parlement? Si, à l'Assemblée nationale, il y a déjà eu l'inondation, la grande crue de 1910. Hop. J'adore cette photo. Je vous présente l'entrée de l'Assemblée nationale en 1910 pendant la grande crue de la Seine. Les députés allaient dans l'hémicycle en bateau. Voilà. Il y avait des petites barques. On a mis des petites barques. Et puis il y avait des mecs qui ramaient. Et ben, ils emmenaient les députés pour aller siéger. Ce qui est important, puisque ça rappelle l'importance de la continuité de la République. On n'arrête pas le travail parlementaire parce qu'il y a des intempéries, ou un incendie, ou la guerre, etc. Il y a une vraie volonté de maintenir en permanence la République et son travail et son fonctionnement. Donc, s'il faut des barques pour aller siéger, eh ben on trouve des barques et on utilise des barques. Terminé. Voilà. Le Congrès, c'est forcément à Versailles. Alors, la salle du Congrès qui est utilisée pour réunir le Congrès français, c'est à Versailles, effectivement. Hop. Voilà, mesdames et messieurs, je vous présente la salle du Congrès situé à Versailles, où vous avez le Congrès qui se réunit. Là, c'était François Hollande, le président de la République. En 2015, après les attentats, il a réuni le Congrès pour prononcer un discours à la nation. Vous avez l'intégralité des députés et des sénateurs qui sont réunis. C'est rarissime, ça s'appelle le Congrès. Et c'est effectivement dans cette salle, la salle du Congrès à Versailles, qui ne sert qu'à ça. Mais dans la même logique que l'Assemblée nationale, le Congrès se réunit là où il veut. Si le château de Versailles crame, c'est pas grave. La salle n'a pas d'importance. Le lieu n'a pas d'importance. Il n'y a pas de sacralité du lieu. Il y a une sacralité de l'institution. Et l'institution, elle est composée par les hommes et les femmes qui composent cette institution. C'est quand même grave si Versailles crame. C'est grave pour des raisons culturelles, c'est grave pour des raisons d'image, c'est grave pour des raisons sentimentales qu'on a tous avec, évidemment, les merveilles de Versailles. Ce n'est pas grave d'un point de vue institutionnel. L'institution est indépendante du lieu. Elle se réunit là où elle veut, l'institution, on s'en fout de là où elle est. Pareil pour le président de la République. Le président de la République, il n'est pas attaché à l'Élysée. Hein. Dans la République, si l'Élysée crame, il va habiter ailleurs. Hein. Tant qu'on fasse des travaux, il se met ailleurs. On s'en fout, il est toujours président de la République. Il a toujours le même pouvoir. Il n'est pas attaché au lieu. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Tac, tac, tac. La salle du congrès est dans le palais Bourbon. Non, la salle du congrès est au château de Versailles. Le palais Bourbon est dans le 5e arrondissement de Paris. La salle du congrès, elle est à Versailles. Donc du coup, il y a des cars. C'est aussi bête que ça. Il y a des bus. On réserve des bus. Et les bus, ils prennent les députés, ils prennent les sénateurs. Direction Versailles. Avec des motards de la police pour ouvrir la voie. Tac, tac, tac. On emmène tout le monde à Versailles. On fait la réunion. On est en direct sur la chaîne Twitch de Jean Massier. Tout se passe bien, blablabla. Et le soir, on rentre. Voilà. C'est ça, une réunion du congrès. Est-ce qu'il y a une obligation pour les chambres d'être réunies en présentiel ? Oui, absolument. Absolument, et ça c'est garanti par la Constitution. La réunion de l'Assemblée nationale est de droit. Alors c'est le chef de l'État, c'est le président de la République, dans le cadre de ses missions de garant de la Constitution, qui convoque le Parlement. Le président de la République convoque le Parlement, il envoie des lettres pour dire « je convoque l'Assemblée nationale pour qu'elle siège ». De telle date à telle date, avec un ordre du jour, etc. Mais il y a un certain nombre de cas prévus dans la Constitution dans lesquels le Parlement se réunit de droit, même si le président ne le veut pas. Par exemple, pour destituer le président. Ah oui, t'es con, hein. Mais s'il y a une destitution qui est enclenchée, l'Assemblée nationale n'a pas besoin que le président l'y autorise pour se réunir. Ça paraît con ce que je suis en train de dire, mais il y a eu une époque où c'était pas con. Il y a eu des moments au 19e siècle où il y a eu des batailles, parce que le Parlement n'était simplement pas réuni. C'était pratique, hein, pour faire des dingueries. Bon, ben voilà, donc maintenant c'est protégé dans la Constitution, l'Assemblée nationale se réunit de plein droit dans un certain nombre de cas. T'as un truc dans la barbe. Toutes mes confuses. Toutes mes confuses. Est-ce qu'il y a des pays où le lieu de pouvoir est sacralisé ? C'est une bonne question. Écoute, j'en sais rien. Pour la France, je sais. Pour les autres pays, je t'avoue que il est possible qu'il y ait le Parlement de Westminster. Le Vatican ? Bah, le Vatican, les gars, je vous rappelle que le pape, il n'a pas toujours été à Rome, hein. Je veux dire, voilà, il y avait une époque où c'était Avignon, le pape. Donc ça n'a pas toujours été le Vatican à Rome. Donc non, si le Vatican crame, le pape, il est toujours pape. Hein. Ça retire pas. L'abbaye où le roi et la reine d'Angleterre. Bah, c'est l'abbaye de Westminster. L'abbaye de Westminster... dans la tradition britannique et dans la tradition de la common law, effectivement, le Parlement se réunit. Il y a un cérémonial d'ouverture du Parlement où il y a le sceptre de la reine. Enfin, du roi, putain, la reine, elle est morte. Vraiment, il va falloir que ça rentre, ça, un jour. Il y a le sceptre du roi qui est physiquement présent dans la Chambre des communes et qui sacralise l'autorité conférée par le roi au Parlement. Je sais pas si on va le voir. Si. Regardez. Ça, c'est la Chambre des communes à Londres, donc l'équivalent de notre Assemblée nationale. Bon, dans la plus pure tradition britannique, évidemment, c'est pas un hémicycle, hein, c'est face à face. Sachez pour l'anecdote qu'il n'y a pas assez de place assise. Pour le nombre de députés qu'il y a. C'est pour ça que vous avez des gugus qui sont debout là-bas. C'est des députés, hein. Les gens que vous voyez là, c'est des députés. C'est pas des journalistes, des assistants parlementaires, des fonctionnaires. Non, c'est des fucking députés. Mais comme il n'y a pas assez de place assise, eh ben, ils restent debout. Et vous voyez ici, hop, voilà, vous voyez là, ça c'est le sceptre du roi qui est posé ici, à l'horizontale. En plus, je crois qu'il y a un sens précis dans lequel il doit être posé, je ne sais plus. Le sceptre du roi, il y a une cérémonie d'ouverture chaque année de la Chambre des communes, au cours de laquelle le sceptre du roi est apporté physiquement. Alors je me souviens, parce que du coup, les portes que vous voyez ici, là, c'est les deux portes d'entrée. Et en fait, ce sont des portes qui font face de l'autre côté du couloir. Vous avez les mêmes portes, mais pour la Chambre des Lords. Et du coup, je crois me souvenir que dans le cérémonial, qui est assez impressionnant, le roi ou la reine vient à Westminster, mais il y a un garde qui se met devant la porte de la Chambre des communes et qui dit au roi, vous n'avez pas le droit d'entrer ici. Je crois qu'il y a une espèce de... Je crois me souvenir que dans la cérémonie, c'est assez marrant, mais il y a un moment où, en fait, on protège le fait qu'ici, c'est la chambre du peuple. Le roi, vous avez le droit d'aller en face, la chambre des lords. Et là, le roi va dans la chambre des lords physiquement. Tous les lords sont là, évidemment. Il prononce un discours et machin. Mais il ne vient pas dans la chambre des communes. Ça, c'est absolument interdit. Le roi n'a pas sa place dans la chambre des communes. Et je crois me souvenir qu'il y a un soldat qui lui dit « Non, non, tu rentres pas. » Ouais, il y a un cérémonial dans le genre, je me souviens plus des détails non plus, mais je confirme. Ouais, non, mais je me souviens plus des détails non plus, je l'avais appris à l'époque, quand j'avais visité, mais je sais plus exactement quel est le cérémonial, mais c'est assez impressionnant. Enfin, en même temps, les gars, c'est la monarchie britannique, hein. C'est quand même voilà, des siècles d'histoire, un décorum absolument incroyable. C'est hyper protocolaire, etc. Bon, bah voilà. C'est filmé, à ma connaissance, c'est filmé, ouais. Donc voilà, je vous disais ça. Oui, on parlait de la sacralité des lieux. Je ne saurais pas vous dire pour les autres pays, est-ce qu'il y a des lieux de pouvoir sacré? Si tu n'es pas dans le lieu, tu ne peux pas prendre des actes, etc. En France, c'est assez clair que le lieu a peu d'importance. Je vous rappelle que la France a connu aussi des histoires tragiques. La Commune de Paris, le gouvernement s'est barré à Versailles. Il a continué à gouverner depuis Versailles, c'était plus depuis Paris. La débâcle de 1940, le gouvernement et le Parlement sont allés à Bordeaux, puis à Vichy. Vous savez pourquoi ils sont allés à Vichy d'ailleurs? Pourquoi ils ont choisi Vichy? La cité interdite lors des empereurs chinois, ça c'est possible. Pourquoi ils sont allés à Vichy? Alors déjà, Vichy était en zone libre. Déjà, premier critère, évidemment. Bon, déjà, pour commencer. Mais ils auraient pu aller à Marseille, ils auraient pu aller ailleurs. Hein. Il y avait Aix-en-Provence, etc. Il y avait d'autres villes. Alors pourquoi ils sont allés à Vichy? Pour une raison très simple, c'est que Vichy est une ville thermale, comme vous le savez. Mais ils n'y sont pas allés pour les thermes. Ils y sont allés parce que Vichy avait le bon goût d'avoir beaucoup d'hôtels. Et des grands hôtels. C'était une ville touristique, même si le mot n'avait pas beaucoup de sens à l'époque, mais Vichy avait plein d'hôtels, des grands hôtels. Et un hôtel, on dirait pas, mais c'est hyper pratique pour y mettre un ministère. Deuxième raison, le téléphone venait d'être installé à Vichy. Vichy était une des villes les plus modernes de France, puisque l'intégralité des hôtels, et limite l'intégralité des chambres d'hôtel, était dotée d'un téléphone. Et c'était très récent, ça venait d'être mis en place avant la guerre, etc. Machin. Et c'est la deuxième raison pour laquelle ils se sont dit, pour déménager tout le gouvernement et tout le parlement d'un pays, c'est quand même plutôt une bonne idée. Donc ils sont allés à Vichy. Ils sont allés à Vichy parce que, voilà, des grands hôtels et le téléphone. Et comme vous le savez, le vote des pleins pouvoirs à Philippe Pétain a été voté dans un théâtre. Il n'y a évidemment pas d'assemblée là-bas. Donc on a réuni l'Assemblée nationale, enfin ce qui restait. Ce qui restait de l'Assemblée nationale a été réuni dans un théâtre. On va regarder. Est-ce qu'on a une photo qui ressemble à quelque chose ? Bon, j'ai pas trouvé mieux. J'ai pas trouvé mieux, mais vous voyez, on a mis devant les premiers rangs du théâtre, on a mis les fonctionnaires qui s'occupent de l'ordre du jour et du procès-verbal, enfin du compte-rendu de la séance. On a mis les secrétaires de séance, on a mis un petit bureau pour le président de l'Assemblée, des petits bureaux pour ses assesseurs, etc. En gros, ils ont reconstitué un truc, et les députés étaient tous assis sur les chaises dans le théâtre. Et là, à la tribune... Donc, vous voyez, ils ont vraiment littéralement refait ce qu'on a au Palais Bourbon. Vous avez l'autre connard qui s'appelle le Premier ministre de Philippe Pétain, Pierre Laval. Merci. Vous avez l'autre connard de Pierre Laval qui est ici, Premier ministre, qui est en train de prononcer un discours dans lequel il défend la motion pour donner les pleins pouvoirs constitutionnels à Philippe Pétain. Voilà, il sera fusillé à la Libération, Pierre Laval. Pierre Laval qui n'a pas hésité à personnellement livrer des enfants aux nazis. Il ne voyait pas le problème. On ne sait pas trop quoi en faire, c'est des gosses. On va les envoyer en train. Ouais, c'était une belle merde, Pierre Laval. On était sur du... Ouais. Il a du niveau, celui-là. Ah oui, non, Pierre Laval, c'était un collaborationniste zélé. Hein, c'est-à-dire que les historiens ont retrouvé des correspondances avec les nazis dans lesquelles Laval, il était force de proposition. Hein. C'est pas du tout le bras tordu par les nazis. Ah non. Ah non, il aidait les nazis. Il en disait, attendez, vous voulez pas plutôt... Nous, des juifs, on peut vous enfiler. Ouais, y a pas de problème, vous inquiétez pas, on met ça en place. On a des enfants, ça vous dit ? On vous les file, hein. c'est OK pour nous On s'en débarrasse, machin. Non, Pierre Laval. Le fameux bouclier. Ouais, le fameux. Ouais. Le fameux bouclier. C'est pas sacré le Kremlin, j'en sais rien. C'est pas sacré le Kremlin, je sais pas. Là pour le coup, je sais pas. Je mourrais d'envie de visiter le Kremlin, vous vous en doutez. Mais je crois que c'est c'est plutôt très fermé à la visite. Laval, député SFIU en 1914, revoyez votre histoire. Ah non, il n'y a pas besoin de revoir l'histoire. Pierre Laval était un député et un avocat à SFIU qui défendait notamment les... Dans le début de sa carrière, il défendait les grévistes. Pierre Laval, il faisait partie des plus zélés de la gauche. Et ensuite, il a complètement changé d'avis. Et il est devenu un collaborateur zélé et un oppresseur des socialistes. Ouais, non, les gens qui essayent de dire Pierre Laval était de gauche... Non. C'est toujours pareil, en fait. C'est absolument toujours pareil. C'est pas parce que le mec a été de gauche à un moment dans sa jeunesse qu'il a fait des trucs de gauche après. Enfin, je veux dire, c'est pas... Non, ça marche pas comme ça. Je répondais à quelqu'un dans le chat qui niait. Ah ouais, qui disait non. Ah bah non, faut pas dire non. Mussolini aussi, bien sûr. Mussolini, évidemment, il est député dans les ligues socialistes italiennes. Dans sa jeunesse. Absolument. Les nazis, c'est la gauche. Le national-socialisme, c'est un extrême-gauche. Alors le problème, c'est que je ne sais pas si t'es sérieux ou si c'est du second degré. Alors dans le doute, on va dire que t'es sérieux, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui circule sur Internet. Cette idée-là, c'est un truc qui circule pas mal sur Internet. L'idée que le national-socialisme était un mouvement de gauche, puisqu'il y a le mot socialiste dedans. Il y a, si ça t'intéresse, l'historien Johann Chapoutot, historien spécialisé du nazisme et de l'idéologie nazie, qui a répondu à ça à plusieurs reprises, dans plusieurs de ses livres, mais aussi dans plusieurs de ses conférences. Tu les trouveras notamment sur YouTube, il s'appelle Johann Chapoutot. Et il explique... comment et à quel point le nazisme était le truc le plus éloigné de la gauche qui existe. Absolument rien de ce que la gauche, et notamment de ce que le socialisme européen porte comme idéologie, comme idée, comme structuration de pensée, etc., ne se retrouve dans le national-socialisme. Donc voilà, garde ça en tête, il n'y a rien de socialiste dans le national-socialisme. Et c'est pas parce qu'un mouvement se revendique de quelque chose qu'il applique la chose en question. Sinon, la République populaire démocratique de Corée du Nord serait populaire et démocratique. Très bel exemple, en effet. Oui, bah oui. Ouais. Pourquoi penses-tu que beaucoup de dictateurs d'extrême droite ont commencé à gauche? Bah, on a parlé que de Mussolini, tu penses à qui d'autre, toi? Les dictateurs d'extrême droite d'Amérique latine, ils n'ont jamais été à gauche, hein. Philippe Pétain n'a jamais été à gauche. Adolf Hitler n'a jamais été à gauche. Il n'a même pas fait semblant. Non. Mao, Pol Pot et Staline ne sont pas des dictateurs d'extrême droite. Ce sont des dictateurs de gauche. Mais la question m'était posée sur les dictateurs d'extrême droite. Franco était de gauche en maternelle. Mais oui, Dieudonné a été antiraciste dans sa jeunesse. Oui. Ouais. J'étais mignon enfant. Rappel utile, le stalinisme, c'est pas le communisme. Oui. Comme le disent les trotskistes, effectivement, bien sûr. Voilà, il y a eu une expérience. Il y a eu des expériences communistes. Le communisme soviétique en a été une. Faut pas cligner des yeux. C'est ça. C'est de gauche les communistes? Oui. Les communistes sont. Alors c'est toujours pareil. Enfin, il n'y a pas de thermomètre officiel sur ce qui appartiendrait à la gauche et ce qui appartiendrait à la droite, surtout partout à la surface de la planète. En France, virgule, à l'aune du XXe siècle et de ce début du XXIe siècle, virgule, le communisme est inscrit dans la gauche du paysage politique. Je fais exprès de prendre ces précautions de langage parce que. Ça date de quand historiquement cette notion de droite et de gauche? Alors il y a un mythe Il y a un mythe qui circule beaucoup et qui dit que la droite et la gauche sont nées à la Révolution française, à l'occasion d'une ou plusieurs réunions du Parlement, au cours de laquelle se seraient positionnés à la droite ou à la gauche du président de séance, les députés se positionnant pour ou contre des trucs un peu importants. On parle notamment de la question du droit de veto du roi dans la Constitution. On parle aussi parfois de la condamnation à mort de Marie-Antoinette. Voilà, tout ça est très mythifié. Le problème que j'ai avec cette légende, c'est que absolument personne à l'époque n'utilisait les mots droite et gauche. Voilà. C'était pas des concepts qui étaient maniés. Il y avait des clubs, le club des Saint-Justiniens, le club des Jacobins, le club des Girondins. Il y avait des clubs qui réunissaient des idées politiques, il y avait des positionnements bizarres, il y avait la montagne, qui étaient ceux qui se mettaient en haut de l'hémicycle. Et encore, je dis en haut, mais je dis hémicycle, mais c'était pas vraiment des hémicycles à l'époque. Il y avait le Marais, qui représente à peu près le centre, les modérés, disons. Donc voilà, tu vois, à l'époque de la Révolution française et dans toute cette période-là, il y avait d'autres mots qui étaient utilisés pour désigner les camps politiques, et la notion de droite et de gauche était très peu utilisée, voire pas du tout. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à dire « ouais, droite et gauche, c'est né à la Révolution ». C'est un peu un mythe qu'on s'invente. Ce qui n'empêche pas la droite et la gauche d'être, de manière revendiquée, les héritiers d'un certain nombre de camps issus de la Révolution. Ou pas, d'ailleurs. Mais voilà. La droite et la gauche sont nées sous la Troisième République. En France, c'est à la fin du XIXe siècle, à partir des années 1870, qu'a commencé à s'affirmer le parlementarisme, c'est-à-dire le fait que le Parlement devienne un enjeu central, un endroit central du pouvoir et du contrôle de l'exécutif. C'est à partir de ces moments-là que sont nées la droite et la gauche modernes, contemporaines. Et c'est depuis ce moment-là qu'on utilise dans le langage courant droite et gauche, à la fois pour se revendiquer d'un camp, ou pour affubler le camp d'en face d'un anathème. Genre, on peut pas parler de droite et de gauche pour la politique antique, du coup. Non, ça n'a aucun sens. Non, ça n'a aucun sens. Enfin, vous ne pouvez pas utiliser des termes qui ont un sens dans un contexte qui est celui du parlementarisme français, dans des zones géographiques qui n'ont rien à voir, à des époques qui n'ont rien à voir. Donc je ne sais pas si les Plantagenets étaient de droite ou de gauche. Cette question n'a aucun sens. Il ne faut pas la poser, elle est débile, elle est anachronique, elle est absurde. Donc voilà, il faut utiliser d'autres mots. Il y a d'autres mots, les historiens font un travail intelligent de documentation, d'explication, etc. Est-ce que la politique de Marc Aurèle était une politique de droite ou de gauche est une question qui n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Elle n'a pas de réponse. Est-ce qu'on peut comparer droite et gauche avec démocrate et républicain ? Non. Enfin, faites ce que vous voulez. Encore une fois, droite et gauche, ce sont des conventions. Vous avez le droit de les manier comme vous le souhaitez. Démocrate et républicain, c'est l'articulation des États-Unis d'Amérique, de la politique américaine au Parlement américain depuis le début du XXe siècle. Voilà, on utilise le mot démocrate, on utilise le mot républicain pour désigner des camps dans une logique bipartisane, etc., etc., etc. Vous pouvez extrapoler ça ailleurs si vous le voulez, mais ça risque de pas résister à la rigueur de l'analyse, quoi. Moi, ça me dérange vraiment, cette notion de camp. J'ai l'impression que ça divise plus qu'autre chose. Ça peut, oui, bien sûr. Ça peut, avant d'être des camps avec des grillages fermés, droite et gauche sont des notions qui permettent de se repérer dans l'espace politique. C'est à ça que ça sert. Vous savez que la droite et la gauche, indépendamment de la politique, hein, la droite et la gauche, ça n'existe pas dans la nature. C'est une convention que les grands singes que nous sommes, nous les humains, nous sommes... Voilà, on s'est tous mis d'accord pour dire que cette main-là, c'était la main droite, et cette main-là, c'était la main gauche. Mais au niveau... Dans la nature, ça n'existe pas. Il n'y a pas de droite et de gauche. voilà. C'est nous qu'on utilise ça pour se guider. Et du coup, c'est vachement pratique. tourne à droite, tourne à gauche, je regarde à ta droite, regarde à ta gauche, etc. C'est pratique pour vivre en société, vu que nous sommes des animaux sociaux. Donc on a utilisé, voilà, on a inventé des mots, mais c'est vraiment des inventions. Enfin, c'est plus exactement des conventions. Et c'est pareil pour le nord et le sud. Le nord et le sud, ça n'existe pas. Il y a un pôle magnétique nord, un pôle magnétique sud. On a décidé de les appeler nord et sud pour se mettre d'accord entre nous. Mais la planète Terre, elle n'a pas de nord et de sud. Hein. Elle vit sa meilleure vie. Elle tourne de la même manière. Elle en a globalement rien à branler de ce qu'on pense. Voilà. Nous, les êtres humains, on a dit celle-là, ça va être le nord, celle-là, ça va être le sud. Comme ça, quand on se déplace géographiquement, on peut se repérer par rapport au référentiel terrestre. C'est hyper pratique. Voilà. Et en politique, c'est pareil. On a utilisé, on s'est mis par convention, on s'est dit, ok, les gens qui soient là dans l'hémicycle, on va appeler ça la gauche, les gens qui soient là, on va appeler ça la droite. On va en débattre pendant des heures parce que personne n'est d'accord, mais au moins, on est à peu près globalement d'accord, de manière macro, pour dire que on reconnaît ça et ça. Voilà. C'est culturel du coup. Oui, c'est culturel, c'est complètement culturel. Regardez par exemple les États-Unis. Aux États-Unis, la couleur rouge est attribuée au parti républicain, la droite, par convention. C'est un héritage. La couleur bleue est attribuée par convention aux démocrates. C'est un héritage. En France, c'est exactement l'inverse. Voilà, en France, la couleur rouge, couleur de la révolution, couleur du sang versé, est revendiquée par la gauche. La droite utilise le bleu, issu du monarchisme, le bleu de la paix, le bleu de la stabilité. Voilà. La droite utilise le bleu, la gauche utilise le rouge. C'est une convention. Voilà, très bon exemple. Aux États-Unis, c'est l'inverse. Le rouge, pire couleur du coup. J'en sais rien. Enfin, ça, c'est une question de goût. Ça, j'en ai rien à foutre. Hein. C'est quoi cette histoire de la rose en France? C'est dans les années 70, au congrès d'Épinay, la fondation du Parti Socialiste par François Mitterrand. Ils voulaient trouver un logo. Et c'est Paul Calandra, je crois, à l'époque, qui a proposé le point et la rose. Le logo historique du Parti Socialiste français, le point qui tient une rose avec des épines. Qu'est-ce que ça symbolise ? Je sais pas. Le jaune, c'est attribué à rien. Mais non, mais après, encore une fois, les couleurs, ça bouge. Regardez le mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes, la couleur jaune fluo a été attribuée à ce mouvement. Qui est un mouvement contextuel, qui est apparu à telle année, de telle manière, il s'est passé ça, etc. Donc voilà, le jaune fluo est attribué aux gilets jaunes. Après, est-ce que les gilets jaunes existent encore en 2024? Ça, c'est un autre débat. Les bonnets rouges, c'était les pêcheurs bretons. Ouais, les bonnets rouges, c'était les bretons, ouais. Les bonnets rouges. Pareil, les bonnets rouges, c'était très contextuel, les bonnets rouges. Hein. C'était vraiment une opposition à une mesure. Et ça s'est effondré juste après, quoi. Mais c'est pour ça que je vous dis toujours, y a les étiquettes politiques que l'on s'affuble soi-même comme des revendications et des fiertés. Et il y a les étiquettes dont on affuble ses opposants pour les ridiculiser ou les dénoncer. Et il peut y avoir des grandes variations entre ce sur quoi on est d'accord d'un côté et de l'autre. Hein. Euh... Pareil pour éléphant et âne aux États-Unis. Oui, alors ça, j'ai jamais su ça. Quelqu'un sait pourquoi le parti démocrate est représenté par un âne? Je crois que c'est une mule, pas un âne, mais une mule. Un peu importe. Et le parti républicain est attribué d'un éléphant. En vrai, doit y avoir des histoires. Doit y avoir des raisons historiques, culturelles, mais je sais pas. L'âne, c'est le labor. Ah, l'âne, il est besogneux, donc il représente les travailleurs. C'est possible. En vrai, c'est possible. Et l'éléphant, c'est la stabilité, l'autorité. L'éléphant, c'est l'emblème du Parti républicain qui remonte à la campagne présidentielle de 1860. Ok, c'est vieux. 1860, mais ça désigne quoi? En 1860, les républicains étaient progressistes. Oui, c'est vrai, c'était ceux qui étaient pour l'abolition de l'esclavage, les républicains. Bah, c'était le parti de Lincoln. Jackass, l'âne est resté comme symbole des démocrates. Donc l'âne, c'était une caricature. C'était une caricature qui dénonçait les démocrates en les traitant d'ânes, et ils ont décidé de retourner le symptôme. Andrew Jackson, c'est ça. Andrew Jackson était accusé d'être un jackass, et du coup les démocrates ont repris l'insulte en disant bah du coup on va être représenté par un âne. C'est trop marrant. Non mais très bien, ok, pourquoi pas. C'est comme les Daft Punk. Oui, c'est ça. L'éléphant a été utilisé pour la première fois comme emblème républicain durant la campagne présidentielle de 1860 dans le journal de Rail Splitter qui soutenait Abraham Lincoln. Cependant, le symbole de l'éléphant est avant tout lié à la réélection du général Grant en 1874. Dans un éditorial du New York Herald, il était dépeint comme un César assoiffé de pouvoir, prétendument en quête d'un troisième mandat. Et c'est pourquoi en 1874, l'éléphant a vraiment été associé au Parti républicain. Merci beaucoup. Bon, et ben voilà, maintenant on connaît l'histoire de l'âne et de l'éléphant aux États-Unis. Bah ben, vous voyez. Ça part d'un article dans un journal. Non, je sais pas, on parlait de quoi d'autre avant? J'ai perdu le fil. Hitler de gauche. Ah oui. Oui, c'est vrai. On était sur Laval et sa clique. Ouais, non, on parlait du fait que l'Assemblée nationale se réunit là où elle veut. On était parti là-dessus, ouais, ça je me souviens. Donc donc effectivement, l'Assemblée nationale, elle a siégé dans un théâtre. Et elle pourrait siéger n'importe où ailleurs, dans une salle de sport, à nouveau. Les partis politiques en Inde utilisent ce genre de symbole visuel en raison de l'illettrisme. D'accord. Je comprends. Est-ce qu'on a des news des bébous du RN au tribunal? J'ai pas d'informations, non, sur où en sont les audiences dans le cadre de l'affaire des assistants parlementaires RN du Parlement européen. Je sais pas où on en est. J'ai pas suivi. Petite assemblée au Stade de France. Compliqué, hein. Nous n'avons que 577 députés. Est-ce qu'il y a une chance que Marine Le Pen soit déclarée inéligible? C'est possible, oui. C'est possible que les juges prononcent une inéligibilité, mais pour ça, il faut qu'il juge de sa responsabilité. Enfin, c'est tout l'enjeu des débats au tribunal en ce moment, hein, pour savoir de quoi était-elle responsable, elle, personnellement, qu'est-ce qu'elle a mis en place, est-ce que c'était volontaire, etc. Est-il vrai qu'à l'époque, les députés de l'Assemblée nationale pouvaient s'affronter en duel au sabre ou au pistolet? La réponse est oui, mais ce n'était pas propre aux députés. Les duels, tu peux regarder une très très bonne vidéo de Nota Bene qui parle de ça, l'histoire des duels, ça existait en France jusqu'au début du XXe siècle. Il y avait des duels qui existaient, où des personnes réglaient leurs comptes, duel au pistolet, duel à l'épée, machin, etc. Les députés étaient des gentlemen comme les autres, et il pouvait leur arriver de régler leurs différends politiques en duel. Enfin, c'était rarement des différends politiques, c'était souvent des différends des combats de coq, quoi. C'est devenu un petit peu désuet avec le temps. Je crois que c'était de moins en moins bien vu, et ça a même été interdit par la loi, les duels à l'épée. C'était vraiment un truc que le gouvernement essayait de limiter. Et à ma connaissance, le dernier duel à l'épée entre deux députés a eu lieu dans les années 60, 50 ou 60. 1967, voilà. C'était un duel à l'épée qui opposait deux députés, dont Gaston Defferre, t'es maire de Marseille, hein, vous savez. Et le mec en face, je sais plus qui c'est. Voilà, c'est un autre député. Apparemment, il s'était engueulé. Voilà, et ils avaient convenu de régler ça par le fer, comme on disait. Ce qui était un truc un peu ridicule, parce que j'ai cru comprendre que ce duel, en fait, il était complètement anachronique. Enfin, vraiment, en 1967, personne faisait ça. Hein. Vraiment, ça avait disparu en France. Et ces deux-là ont décidé de régler ça. Alors, ils sont allés dans un hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine. René Ribière, merci. René Ribière, qui était le député en face. Ils sont allés dans un hôtel particulier. Je vous rappelle, c'était illégal à l'époque. Hein. On n'était pas censé le faire, mais donc c'était des députés. Donc ils sont allés dans un hôtel particulier qu'un copain leur a prêté pour aller régler ça dans le jardin. Et évidemment, les deux députés avaient intérêt à ce que ce soit connu. Donc évidemment, ils ont invité des journalistes. Évidemment, les journalistes se sont invités les uns les autres parce que voilà, donc on se retrouve dans un endroit où t'es censé faire un truc illégal, sauf qu'il y a des caméras, des appareils photos, des reporters. Et donc ça a été filmé. Le duel à l'épée entre Gaston Defferre et Ribière a été filmé. Je vais vous montrer, du coup. Allez, vous avez le droit. L'archive de l'époque.
Ayant déjoué la police et presque toute la presse, adversaires, juges et témoins se sont retrouvés sous les ombrages d'une résidence privée de Neuilly. Arbitre, M. de Lipovski. Offensé, M. René Ribière, député 5e République du Val-d'Oise. Insulté à l'Assemblée lors d'une discussion véhémente, il demandait réparation par les armes et avait choisi l'épée pour laver son honneur. Offenseur, M. Gaston Defferre, député maire de Marseille, socialiste. Les témoins des deux adversaires s'étaient mis d'accord sur un duel au premier sang. M. Defferre, qui eut déjà une explication au pistolet avec M. Paul Bastide, prit rapidement l'avantage sur M. Ribière, qui, pour en être à ses premières armes, semblait moins assuré. Liant le fer, marchant, poussant sa botte, enfin, M. Defferre touchait son adversaire à l'avant-bras. Le premier sang venait d'être versé. M. Ribière pourtant exigeait de reprendre le combat, non pas à mort, car il pensait se marier le lendemain même et risquer sa vie pour une insulte lancée au cours d'un débat politique n'est guère de notre temps. Lorsque, sur une nouvelle botte, M. Ribière fut une fois encore touché, l'arbitre arrêta la rencontre.
Waouh. Waouh. J'adore les actualités cinématographiques. J'adore les actualités cinématographiques à l'ancienne. Bon, vous voyez, c'était ridicule. Enfin, voilà, c'était, il n'y a rien de... C'est une embrouille entre deux députés qui décident de régler ça à l'extérieur de l'Assemblée. Tout ça, rien de tout ça n'est organisé, rien de tout ça n'est... C'est un peu ridicule, très anachronique, et c'est la dernière fois que ça a eu lieu. Mais donc voilà, quand on dit que le dernier duel a eu lieu en 1967 en France, ne gardez pas à l'esprit qu'en 1967, les Français se battaient encore en duel. Voilà, ça n'existait plus, c'était ridicule, à l'ancienne. Et Gaston Defer et l'autre Ribière qu'il fait la veille de son mariage, tu vois, vraiment... C'était un délire de presse people pour faire plaisir à la plèbe. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'était vraiment un délire de presse people, un truc ridicule. Alors que je vous rappelle qu'il y a eu lieu un autre duel politique en France. Alors attends, il faut que je vous le retrouve. Merde. Comment il s'appelle? Voilà. Il y a eu un autre duel politique en France où des députés se sont réglés.
Un petit peu courbé et genre focus dans le fight. Alors...
Ça a eu lieu, je sais plus quand. C'était il y a 4 ans. Un duel entre La République En Marche et La France Insoumise. La France Insoumise représentée par le député Hugo Bernalicis. Et La République En Marche représentée par le député Denis Masseglia. Qui ont réglé leurs différends. Dans une partie de LOL.
Le Yasuo pas décal.
C'était pas une partie, c'était trois parties de League of Legends. Trois parties. Les équipes étaient composées de militants de chacun des parties. C'était un BO3. Qui était organisé par Jean Massier, diffusé sur sa chaîne, commenté par GobGG, évidemment, l'immense GobGG qui a commandé cette rencontre au sommet, et le débrief entre les deux députés, Hugo Bernalicis et Denis Masseglia, députés opposés politiquement, bien entendu, mais néanmoins tous les deux membres du groupe d'études sur le jeu vidéo de l'Assemblée nationale. Denis Masseglia, que vous voyez à gauche, député qui préside le groupe d'études sur le jeu vidéo à l'Assemblée nationale, et qui vient de réussir à faire adopter un amendement dans le budget 2025 maintenant le crédit d'impôt jeu vidéo. Bravo Denis. C'est là, trois ou quatrième année d'affilée qu'il réussit à faire adopter cet amendement. Je rigole, mais le secteur du jeu vidéo en France dépend en grande partie de cet amendement. C'est vraiment le crédit d'impôt jeu vidéo, le CIJV, qui permet à toute la filière de survivre. Et c'est grâce à Denis qui dépose cet amendement à chaque fois, et les députés insoumis qui le votent. Quand on dit que la France Insoumise et la République En Marche sont incapables de s'entendre, c'est pas vrai. Sur le jeu vidéo, ils votent le même amendement. Le CIJV, c'est des centaines d'emplois au bas mot. C'est même plus que ça. Hein. Donc voilà, donc oui, j'ai organisé le deuxième duel à l'épée de la République française entre deux députés. Ça s'appelait Politikik. Politikik, pardon. Vous pouvez retrouver le match, hein, c'est 2h30 de VOD entre La République En Marche et La France Insoumise. Qui a gagné? C'est La République En Marche qui a remporté le match. C'est La République En Marche qui a remporté le match. Tu pourrais le refaire? Ça coûte un peu de pognon, hein. Quand même. Ouais, je suis très content de l'avoir fait à l'époque, mais D'ailleurs, à l'époque, oui. Alors ça, je devrais pas le dire. Mais à l'époque, j'ai fait payer les parties. j'ai fait participer au financement du bordel les deux partis politiques. Je leur ai dit, alors par contre, les gars, je vous le dis tout de suite. Moi, je fais pas ça gratos. Enfin, voilà, il y a des techniciens à payer et tout. Je vais pas aligner mon pognon à moi tout seul. Donc, vous allez vous aussi participer. C'est un petit billet, c'est pas énorme. Voilà. Et les deux ont dit oui. Hein. Les deux ont dit oui. Les deux ont dit ok, d'accord. C'est la seule fois de ma vie. C'est la seule fois de ma vie sur Twitch que j'ai accepté de l'argent des partis politiques. Le reste, plus jamais. Mais là, j'ai dit, ah, attendez. Là, il se passe un truc. C'est important, faut que vous participiez et tout. Et voilà. Une cotisation, une participation aux frais. Voilà, c'était une participation aux frais. Chacun y met du sien et on réussit à organiser une belle émission. On savait t'es un vendu. Ah ouais. Alors du coup, je suis un vendu à La République En Marche et à La France Insoumise en même temps. Je suis quand même le mec corrompu le plus nul. Hein. On va retrouver tes drôles de virements pour la HATVP. Ah non, c'était du budget de fonctionnement, c'était pas du budget de campagne. Ah ben non, mais putain, t'imagines. Les deux parties qui se font annuler des financements en disant qu'est-ce que c'est que ça, vous avez payé une partie de League of Legends. Va expliquer ça à la Commission nationale des comptes de campagne. Je l'ai pas précisé, mais Denis Masseglia et Hugo Bernalicis, ils sont streamers aussi. Hein. Ils sont pas que joueurs de LOL. Hein. Ils sont streamers. Denis, vous pouvez le suivre sur sa chaîne qui s'appelle Masseglia. Hugo, c'est la chaîne qui s'appelle Depu Twitch. Ça s'écrit comme ça se prononce, Depu Twitch, tout attaché. Voilà, ça stream quoi, ça stream tranquille. T'as pas eu de soucis avec Riot ? Si, on a eu des soucis avec Riot. Ou en gros, Riot, ils nous ont fait comprendre qu'ils ne voulaient pas du tout être mêlés à ce truc-là, qu'ils n'étaient pas d'accord. Mais comme on n'organisait pas une compétition, mais un match amical, il n'y avait pas d'argent en jeu et il n'y avait pas de ligue, etc. Ils ont, à Riot à l'époque, ils ont strictement interdit à ce qu'on diffuse l'émission sur une autre chaîne que sur la mienne. Bon, ça tombe bien, personne d'autre voulait la diffuser. Et il n'y avait pas de cash prize. Et ils ont fait pression sur les commentateurs. En gros, les commentateurs officiels Riot n'avaient pas le droit de participer à l'émission. Du coup... Gob, je suis allé le voir à la Zilane, parce qu'à l'époque je participais à la Zilane. Je suis allé voir Gob à la Zilane, je lui ai fait « Frère, est-ce que t'es chaud pour commenter un match amical sur League of Legends entre deux partis politiques ?» Il m'a dit « MDR, let's go, ça me fait trop marrer. » Vraiment, Gob, il a été en or sur ce coup-là. Et je lui ai dit « Mais attends, on est d'accord, t'es pas un commentateur officiel Twitch ?» Il m'a dit « Non, pas du tout, je suis streamer indépendant, je commande des games, etc. Mais je suis pas affilié à Riot. Donc t'inquiète, y a pas de souci, quoi. » Mais Riot, ils sont vénères. Riot, ils sont vénères sur ce genre d'opération. Ils aiment pas ça du tout. Ça les amuse pas du tout. J'ai essayé de leur dire... c'est les deux seuls députés du pays qui défendent le jeu vidéo. Genre, c'est des mecs un peu importants. Enfin, je veux dire, c'est important aussi pour vous, Riot, que vous puissiez vous mettre bien avec des gens comme eux, parce que, voilà, je sais pas, c'est important, vous savez, les Worlds et tout. Et en gros, les mecs à qui je parlais, ils comprenaient rien. Pour eux, l'importance du Parlement, pour eux, ça appartient absolument pas à la picture. Ils en ont rien à foutre. À tel point que, à une certaine occasion, c'était les Worlds, la finale des Worlds à Paris. je sais pas si je devrais le dire ça, mais à la finale des Worlds à Paris, le président du groupe d'études pour le jeu vidéo en France n'a pas été invité. Il a fallu qu'il paye sa place lui-même. J'étais furax quand j'ai appris ça. J'étais vraiment en mode, mais... Enfin, comment vous gérez vos relations publiques, en fait, enfin... C'est ouf, je sais pas, enfin, payer une agence d'influence à la con en leur demandant c'est qui le gratin qu'on doit inviter. Et les mecs, s'ils font à peu près bien leur travail, ils vont percuter qu'il y a 2-3 députés, c'est important de les avoir avec nous en fait. Genre, c'est du lobbying de base, tu vois. Genre, juste. Non, c'est très bien, stop au privilège. Non, mais c'est pas un privilège. Attention, c'est pas un privilège pour les députés d'aller assister aux Worlds de League of Legends. C'est un privilège pour Riot de pouvoir organiser les Worlds dans ce pays. C'est dans ce sens-là que ça marche. Si tu veux que le secteur du jeu vidéo fonctionne dans un pays, si tu veux pouvoir continuer à organiser des compétitions dans ce pays, t'as intérêt à te mettre bien avec les représentants du pays. Ça comprend les ministères, évidemment. Le gouvernement, c'est important, tout ça. Mais ça comprend aussi les députés. Les compagnies s'en foutent. Alors, les gars, les compagnies ne s'en foutent pas quand elles reçoivent leur fiche d'impôt. C'est toujours pareil. Croyez pas que les compagnies, les entreprises, les multinationales, etc., ne s'intéressent pas à la politique, elles sont au-dessus de ça, que c'est vulgaire, etc. Pas du tout. Quand elles reçoivent leur impôt sur les sociétés et qu'elles se rendent compte qu'elles ne peuvent plus bénéficier de la niche fiscale dont elles bénéficiaient depuis 20 ans, là, du jour au lendemain, les compagnies, elles s'intéressent vachement à la politique. Ça les intéresse beaucoup. Elles s'en fichent. Non, elles s'en fichent toujours pas. Parce que les gouvernements étaient au courant de l'existence des Worlds. Bien sûr. Évidemment. Bien évidemment. Le secteur du jeu vidéo en France, il est soutenu et porté par le ministère de l'économie et des finances. À la DGE, à la Direction Générale des Entreprises, il y a un secteur entier qui s'intéresse aux jeux vidéo, qui soutient le développement du secteur jeux vidéo en France. Les déboires d'Ubisoft, ça intéresse le gouvernement français. C'est des parts de marché, c'est du rayonnement, c'est de l'exportation, c'est pas rien. Les GAFAM qui font du sous en France et étant impliqués à Dublin s'en moquent. Mais pourquoi ce que tu dis est factuellement faux ? Comment t'arrives à dormir avec ça ? Les GAFAM passent leur temps à négocier avec le gouvernement français. Ça n'arrête pas. Je travaille en Allemagne pour les réseaux de la diplomatie culturelle française. Il y a de l'argent investi dans le développement de la filière jeux vidéo français et son exportation. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça attire des investisseurs. Hein. C'est pas pour rien. Ça va, t'es pas trop matrixé, Jean ? Pas autant que toi. Zera a été invité à l'Elysée à l'occasion de la Trackmania Cup, ainsi que les acteurs de l'e-sport. Ouais, je sais, j'y étais. Alors à l'époque, le président de la République a voulu se saisir de l'occasion de la finale de la Trackmania Cup pour souligner l'importance de l'investissement en France de la filière jeux vidéo. Il a essayé aussi d'annoncer des trucs sur l'e-sport, mais alors là, pour le coup, c'est assez peu l'État qui peut diriger ça, hein, sur la formation des ligues, sur l'organisation de compétitions, etc. En plus, on était dans la perspective des jeux vidéo. Des quoi ? Des Jeux Olympiques, pas des jeux vidéo, des Jeux Olympiques. Et du coup, voilà, Macron voulait qu'à l'occasion des Jeux Olympiques, la France accueille des compétitions e-sport et tout. Bon, le truc, c'est que là, pour le coup, compétition e-sport, ça dépend assez peu de l'organisation d'événements. Donc c'est plutôt les éditeurs de jeux vidéo, l'organisation des ligues et les argents qui sont investis dans la filière e-sport. Mais il n'y a pas que Xenerator, il y avait Kamel, il y avait Prime, il y avait Lore Valley. Moi, j'y étais. Denis Masseglia, donc le président du groupe d'études jeux vidéo à l'Assemblée nationale, n'a pas pu être présent. Parce qu'il n'était pas... parce qu'il était en campagne. On était pendant la campagne des élections législatives. Il y avait Clem de StarCraft, évidemment, il y avait Clem. Ah, mais moi, j'y étais. Hein. J'y étais, c'était cool, il y avait tout le monde, il y avait toute la famille e-sport. Il y avait Poca aussi. Funka, évidemment que Funka était là. Tous les grands de l'e-sport étaient là. Pourquoi l'État ne cherche pas à mettre un coup d'accélérateur dans le développement de l'e-sport, sachant qu'il y a un public pour ça en France ? Bah, c'est ce qu'ils font via le crédit d'impôt jeux vidéo qui permet de soutenir les filières, l'ensemble de la filière jeux vidéo. Et l'année d'après, les propos de Macron sur les écrans et les jeunes ont un peu brisé certaines choses. Complètement. J'avais fait une vidéo à l'époque, rappelez-vous, qui s'appelait « Les gamers et Macron, le fossé », je crois. Ou « Les gamers et la politique », je sais plus. J'avais fait une vidéo où je revenais exactement là-dessus sur Macron qui avait énervé tous les joueurs de jeux vidéo avec les propos qu'il avait tenus sur les écrans, ouais. Qui était à l'inverse de ce qu'il disait à l'Élysée devant tout le secteur e-sport. Le crédit d'impôt jeux vidéo ne finance pas l'e-sport en France car aucun ou presque ne touche d'aide du CNC. Ça n'a rien à voir. Le crédit d'impôt jeux vidéo et le Centre national du cinéma et de l'image animée n'ont rien à voir. Crédit d'impôt jeux vidéo est une niche fiscale qui permet aux entreprises qui investissent dans le développement, l'édition et la distribution de jeux vidéo en France de bénéficier de moins d'impôts à payer à la fin de l'année que les autres entreprises. Le Centre national du cinéma est un organisme qui répercute les taxes afférées sur les ventes de billets de cinéma dans la production audiovisuelle et le jeu vidéo. Le CNC finance aussi la production de jeux vidéo. Mais c'est pas similaire. Enfin, c'est deux choses différentes. C'est deux mécanismes qui permettent de soutenir le jeu vidéo de manière différente. Donc voilà, il y a un fonds d'aide au CNC. C'est pas que les joueurs, l'industrie du jeu vidéo lui a réclamé des excuses aussi, et il a fini par faire un post Twitter un peu larmoyant au final. Non, c'était réclamé par personne en particulier, mais oui, il a fait un post Twitter un peu long pour s'excuser. Je t'invite vraiment à regarder la vidéo que j'avais faite à l'époque... qui s'appelle Le Fossé, où je reviens sur cette histoire-là, sur comment est-ce que ça a pu... Le fossé a pu se creuser à ce point-là entre Macron et les joueurs de jeux vidéo. Lui qui était en 2017 le candidat de la modernité, le candidat du numérique, le candidat de cet esprit start-up qu'on retrouve un peu dans la culture jeux vidéo, innovation numérique, etc. Le crédit d'impôt permet de financer l'e-sport est partiellement faux. Le crédit d'impôt peut être utilisé par des entreprises qui font de l'e-sport. Le crédit d'impôt jeux vidéo, tu es éligible si tu organises des compétitions. Il y a aussi la loi République numérique, qu'à l'époque j'avais couvert sur ma chaîne, sur Twitch. La loi République numérique qui a créé un cadre légal d'organisation des compétitions de jeux vidéo. Parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Et les organisateurs de compétitions se retrouvaient dans un vide juridique, dans un flou juridique, qui mettait en péril juridiquement leur pérennité. Donc, T'en penses quoi du drama Kameto et Prime? Écoute, je sais pas trop quoi en penser. Je ne connais que Kameto, je connais pas Prime. J'ai jamais discuté avec lui. Moi, j'ai toujours soutenu Kamel. J'espère qu'ils vont réussir à trouver un accord et que les choses vont rentrer dans l'ordre, quoi. Ce serait dommage que la belle histoire de la K-Corp en prenne un coup. Après, je trouve que... Et ça, j'ai toujours été critique de la K-Corp parce que ses fans sur Internet sont particulièrement cyberharceleurs. Il y a une ambiance moisie. C'est d'une violence inouïe ce que se prend Prime dans la gueule, qui est à 10 000 km de ce que mérite ce genre d'histoire, qui est une affaire d'associés, qui est une affaire... assez classique, les gars, dans l'e-sport, hein, pas se mentir, hein, c'est ni la première ni la dernière organisation, structure à avoir ce type d'enjeu. Si on peut éviter les milliards de tweets d'insultes, sans déconner, ça ferait du bien à tout le monde, quoi. Et ça aussi, ça aide pas l'e-sport. Moi qui vous parle en permanence, justement, de ce qu'essaye de faire le gouvernement, de ce qu'essayent de faire les députés, les sénateurs pour essayer de soutenir le jeu vidéo, l'e-sport et tout. Quand vous renvoyez cette image-là, les gars, vous donnez à personne envie de vous aider, de participer avec vous à l'éclosion d'un écosystème e-sport, quoi. Et ça, ça a toujours été le boulet au pied de la K-Corp depuis sa création, hein. C'est les deux revers de la médaille K-Corp, c'est que c'est une ferveur magnifique. Le revers de la médaille, c'est une odeur. Wow. C'est des ultras, c'est comme dans le foot ou ailleurs, c'est toxique. Ouais, mais moi je m'en satisfais pas, tu vois, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire, ce que tu me dis, c'est que ça existe ailleurs. Je suis d'accord avec toi, ça existe ailleurs. Mais je ne m'en satisfais pas, en fait. Ça existe partout où ça peut exister, j'en ai rien à foutre. Dans tous les cas, je suis pas pour. Et moi qui suis... à mi-chemin entre le monde de l'influence du jeu vidéo et de l'e-sport et de la politique, je vois à quel point ça fait du mal à l'e-sport, ce genre de dinguerie, quoi. Et ça me fait chier pour l'e-sport. Mais vous vous souvenez, je vous en avais déjà parlé des mêmes phénomènes dans la politique. C'est pareil. Les militants politiques qui font du cyberharcèlement, putain, vous vous tirez une balle dans le pied, mais d'une puissance. Vous militez contre votre parti. En vous comportant comme ça. Ben voilà, c'est pareil dans les sports, c'est pareil dans le jeu vidéo, c'est pareil dans... C'est pas parce que le principe d'ultra du foot existe qu'il faut l'importer dans le monde de l'e-sport. Bah, non mais si, encore une fois, je suis pas là pour juger. C'est effectivement particulièrement plaisant de soutenir un club, de soutenir une structure e-sport. Je comprends qu'il y ait de la ferveur et c'est cool. Et dans le sport, il y en a toujours eu et c'est bien. Effectivement, l'ambiance ultra, c'est un peu comme la mauvaise herbe, quoi. C'est-à-dire que ça empêche de fleurir à côté d'autres personnes... C'est dur. Par exemple, aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais les stades de foot ont du mal à remplir des spectateurs d'un public familial. Il arrive que dans certains matchs, etc., il y ait des gens qui hésitent à aller au stade avec leurs gosses. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de la violence aux abords des stades. Ils ont peur de la violence des propos. Ils ont peur d'une ambiance délétère, etc. Enfin, voilà. Bah c'est chiant pour le football, en fait. C'est pas... Voilà. C'est le côté espèce invasive, tu vois. Les ultras attirent les ultras, et à la fin, il n'y a plus que des ultras dans le stade, parce que tout le reste s'est barré, en fait. Et bah voilà. Bah j'ai peur que ça arrive dans l'e-sport. C'est ça que je dis, en fait. C'est que j'ai peur que ça arrive dans l'e-sport. Moi, je me souviens, la dernière fois, j'étais à la finale des Worlds à Bercy. C'était trop bien, je passais une super soirée et tout. Et en sortant, j'ai discuté avec une famille qui était là, et la maman avait accompagné ses deux fils en disant c'est leur cadeau d'anniversaire, je leur ai offert ça, ils avaient très envie de venir et tout. Et moi, j'étais en mode trop bien, tu vois, c'est trop cool. La maman, elle est venue avec ses deux gamins, elle les a accompagnés. C'est trop cool qu'il y ait des familles qui se sentent bien dans l'e-sport et qui se disent, je peux aller au stade, aller voir des matchs. Et j'ai envie que ça continue, en fait. Ça, cette ambiance-là, cette ambiance familiale. Prenez exemple sur le cyclisme, on supporte tout le monde. Oui, non mais voilà. Non mais oui, les familles sur le bord du Tour de France. Oui, bien sûr. Donc bref, ouais, voilà, cette espèce d'ambiance d'ultra, je trouve que là, dans le drama avec Prime et Kameto, bah, on retrouve malheureusement les travers déplorables du cyberharcèlement permanent, quoi. Ça me saoule. Mais ça me saoule partout, le cyberharcèlement, hein, pas que dans l'e-sport. C'est quoi le contexte du drama ? C'est un article d'enquête publié par deux journalistes de la revue 21 sur le sujet des dissensions à la tête du club de la K-Corp entre les deux associés que sont Kamel et Amine. Voilà. Il y a des divisions, c'est compliqué, il y a des histoires de gros sous. Voilà. Après, Prime, il n'est pas en sucre, faut doser. Ah, mais moi, je dose à mort. Hein. Je dose à mort sur le fait que Prime n'est pas en sucre, mais un mec pas en sucre ne mérite pas de se recevoir des torrents d'injures sur les réseaux sociaux. C'est ça que je dénonce. Que penses-tu des propos d'Hollande sur la non-candidature de LFI pour les présidentielles pour faire gagner la gauche ? J'en pense rien. C'est de la tactique stratégique assez logique et attendue de la part de François Hollande. La France insoumise est un parti politique qui est né de la contestation du hollandisme. Donc je n'attends pas que ces deux-là soient contents. Soient copains, pardon. Mais François Hollande veut faire émerger en France... il veut faire réémerger un parti socialiste fort qui ne fasse pas alliance avec la France insoumise. Donc c'est normal qu'il se critique. Je veux dire, la France insoumise critique François Hollande critique la France insoumise. Hein, j'ai un moment. Un débat Hollande-Mélenchon, my dream. Bah, j'avais essayé de l'organiser. Mélenchon a refusé. Malheureusement. Pour une raison en particulier ? Non. Jean-Luc Mélenchon a refusé de débattre avec François Hollande. J'ai proposé aux deux un débat. Les deux ont refusé de prime abord. Puis j'ai convaincu Hollande, qui a dit « Bon, d'accord, j'accepte le principe d'un débat avec Jean-Luc Mélenchon. » Et je suis retourné voir Jean-Luc Mélenchon et son équipe, et je leur ai dit ben voilà, François Hollande est OK. Maintenant, c'est à vous. What you say ? What say you ? Ils ont dit non. Je leur ai dit, mais vous savez que le problème, c'est que du coup, si vous venez pas, on va avoir François Hollande tout seul, donc on va faire une interview de François Hollande. Et ils m'ont répondu, si vous faites ça, on vous pourrira. Et ça a donné l'interview de François Hollande... pas à l'UMA, avec Libé, dans le grand amphi de la Sorbonne sur Backseat. Mais je regrette pas d'avoir proposé aux deux un débat, parce que je continue à penser que ça avait du sens. En plus, moi, ce que je leur disais, écoutez les gars, c'est les 50 ans de Libé. On organise une émission Backseat spéciale à l'occasion du Forum Libé pour parler de l'état de la gauche. Vous êtes tous les deux, que ça vous plaise ou non, les deux personnalités de gauche les plus importantes de ce début du XXIe siècle en France. Nous, on propose une émission sur Twitch qui s'adresse à un public jeune. Je sais que vous y êtes tous les deux sensibles. Je vous propose de venir échanger, débattre. Un débat respectueux, à l'occasion des 50 ans de Libé, qui est quand même pas n'importe quel journal dans l'histoire de la gauche. Voilà. Devant un public jeune, en plus, parce que le Grand Amphi était rempli de jeunes. C'était Backseat. Et c'est pour ça que Hollande a dit oui, oui. Enfin, c'est pour ça que Hollande, j'en sais rien, il a fini par être convaincu. Il a fini par être convaincu. Ils ont vraiment employé le terme pourrir ou tu paraphrases. Auprès de mon coproducteur, ils ont vraiment utilisé le mot pourrir, ouais. Le débat Poutou-Hollande, ce serait incroyable. Hollande acceptera jamais de débattre avec Philippe Poutou. T'aurais dû dire si vous venez pas, on prend Ruffin. Non, parce qu'à l'époque, Ruffin avait pas la stature qu'il a aujourd'hui. Débat Mélenchon-Poutou sur Backseat. Mais pourquoi tu veux faire débattre Mélenchon et Poutou? Il a appelé à voter Mélenchon, Poutou. Et il a été investi par LFI aux législatives. Ça n'a aucun intérêt de les faire débattre. Et Mélenchon n'a pas appelé à voter Hollande en 2012. C'est une bonne question. Au second tour face à Sarkozy, c'est possible. Au second tour, ouais. Besancenot-Hollande, ça aurait plus de gueule. Mais ça n'arrivera pas. Hein. Pourquoi Hollande accepterait de débattre avec un candidat qui n'a jamais fait plus de 4% aux élections présidentielles. En 2002. C'est vrai, il a fait 5% en 2002 et depuis... Ça n'arrête pas de réduire. Hollande n'a aucun intérêt à légitimité de tel profil. Exactement. En fait, c'est ce que je vous explique parfois sur le fait qu'il y a, en fait, il y a un marché de l'interview politique. Et ça, c'est un truc qu'il faut comprendre pour saisir comment et dans quelles conditions ce genre de trucs peuvent exister. Le marché de l'interview politique, c'est le fait qu'il y a une offre de médias qui propose tous des audiences différentes, plus ou moins importantes, plus ou moins prestigieuses. Et vous avez une offre de politique qui sont tous plus ou moins importants, et parfois ça change en fonction du contexte. Et que les interviews n'ont lieu que dès lors qu'il y a une rencontre d'intérêt. Le politique accepte de venir à une interview parce qu'il sait qu'il va pouvoir s'exprimer devant une audience à laquelle il veut parler. Les médias invitent tel ou tel politique parce que ça peut leur apporter de l'audience. Et quand vous organisez un débat, vous avez intérêt à ce que tous les candidats aient intérêt au débat. Est-ce qu'on se demande quel intérêt a Baxit à ressortir Hollande ? Parce que je sais que c'est douloureux pour toi, mais François Hollande est le seul président de gauche du XXIe siècle en France. Eh oui. C'est douloureux, ben oui. Il faut que vous le compreniez, hein, ça c'est vraiment important. On n'invite pas sur Baxit des gens parce que ça nous fait plaisir. On invite des gens parce qu'on a des questions à leur poser et que ça nous intéresse. Bah si tu peux. Bah non. Non, non, Baxit ne fait pas du fanservice. Et non, Baxit n'est pas là pour satisfaire une envie. C'est pas du tout notre job. Vous trouverez ça ailleurs sur Internet, mais pas sur Baxit. Comment vous préparez vos émissions ? Bah on se cale sur l'actu. On se cale sur l'actu, on a une lecture de l'actu, on se demande quels sont les sujets du moment qui seraient intéressants d'interroger dans ce cas-là précisément. On lance des invitations, on essaye de voir si ça mord, on insiste. Et ensuite on fait la réunion de rédaction le mercredi, la veille de l'émission. Et la réunion de rédaction, on décide des thèmes dont on va parler demain, mais les thèmes, ils s'imposent à nous par l'actualité. Pareil, on ne parle pas de sujets pour le plaisir de parler des sujets. Hein. Vous êtes soumis à une forme de temps de parole ou c'est simplement de la conscience personnelle ? On n'a aucune obligation de temps de parole. Il n'existe pas de mesure de temps de parole sur Internet et dans la presse écrite. Ça pourrait arriver, non, ça pourrait pas arriver. Ce serait bien si Baxit faisait une émission spéciale sur les élections américaines. Ouais. Mais c'est, alors ça c'est aussi un truc, mais c'est un truc qui est valable partout sur Internet, mais je sais que vous le savez, vous n'êtes pas obligé de regarder Baxit, que les choses soient dites. Il y a des personnes, ça arrive, il y a des personnes qui ne supportent pas d'entendre des gens avec lesquels ils sont en désaccord politiquement. Ils ont parfaitement le droit, et il n'y a aucun problème. Voilà. Moi, parfois, je reçois des commentaires de gens qui me disent « Je suis désolé, mais tel invité, j'ai pas envie de l'écouter, donc je vais pas regarder Baxit cette semaine. » Moi, je lui réponds « Mais t'excuses pas ?» T'as le droit, c'est pas grave. Si ça t'intéresse pas, ça t'intéresse pas. C'est pas... Vu et sans tape, ouais. Non, si vous êtes trop sensible et que vous n'arrivez pas à entendre des opinions différentes des vôtres, ne regardez pas les interviews des personnes qui sont pas d'accord avec vous. Ne regardez que des contenus qui vont dans votre sens. À ce moment-là, si ça vous fait du bien, c'est important. Euh... Après, c'est dommageable comme mentalité, mais chacun fait ce qu'il veut. Ah non, non, mais chacun fait ce qu'il veut. Non, non, mais moi, je suis pas là pour juger. Y a aucun problème, chacun est dans son truc. Un militant LFI, c'est sensible. C'est pas les plus sensibles, hein, les militants LFI. Non, 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 non. Détrompez-vous, hein. Non, non, franchement, ça va. Hein. Je réfléchis, c'est... Alors, c'est toujours pareil, les militants LFI d'Internet, eux, ils sont... Bah, ils militent contre la France Insoumise, donc... Donc voilà, ils sont très sensibles. Mais les autres, franchement, ça va. Hein. Enfin, je veux dire, il y a quand même... la gauche, historiquement, il y a un amour de la... du discursif, de la... Merde. De la polémique, du débat, de la controverse. Dialectique. Je cherchais le mot dialectique. Merci, Excelior. La gauche, c'est un énorme village gaulois. Oui, c'est ça. C'est pas parce que tu n'arrives pas à supporter Twitter que les personnes de Twitter sont toutes les mêmes. Ah, je parle pas de toutes les personnes sur Twitter, c'est pas toutes les mêmes, hein. Loin de là. Juste les militants. Ouais, les militants les plus fervents. Est-ce que tu penses que la politique, c'est une sphère où l'extrême gauche rejoint l'extrême droite à un moment? Non. T'as les théories de fer à cheval, etc. Non. LFI, c'est la vraie gauche en France, comme Stein aux États-Unis, il faut arrêter de se leurrer. T'sais, les personnes qui ne sont pas d'accord avec toi ne sont pas forcément leurrées. On voit bien Poutou rejoindre le RN. Non mais non mais non. Elle affiche de droite, la vraie gauche c'est le NPA. Le NPA c'est de droite, la vraie gauche c'est Révolution Permanence. Contre Kems. Ils sont un peu sosdem à Révolution Permanente. C'était quoi la phrase avec Anas Kazib déjà? Non, non, il n'y a pas de phrase avec Anas Kazib. Anas Kazib et sa branche qui s'appelle Révolution Permanente ont quitté le NPA et dans leur communiqué de presse de départ du NPA, ils ont annoncé... ils ont dénoncé une, je cite, « droitisation du NPA ». Fin de citation. Voilà, c'est tout. Ils voulaient dénoncer par là la tentation du NPA d'aller s'allier avec la France insoumise. La vraie gauche, c'est les punks à chiens anards qui traînent à côté de la gare de Rennes. Le reste, c'est de l'extrême droite. Non, mais ouais. Vous voyez à quel point ça rend con, ces histoires de droite et de gauche? C'est parce que là, je sais bien qu'on rigole et que vous êtes en train de raconter de la merde pour rigoler et tout. En vrai, c'est marrant. Mais par-delà la blague, je trouve que ça dit quand même quelque chose de la vacuité un peu de la discussion sur c'est quoi la vraie gauche, c'est quoi la vraie droite. Qu'est-ce qu'on s'en branle? Qu'est-ce qu'au bout d'un moment, est-ce que... Je connais ta position sur l'histoire droite-gauche, mais pourquoi as-tu demandé à Charles de Courson comment il se positionne? Ben parce que ça m'intéresse. C'est une vraie question sincère. Comment vous positionnez-vous, Charles de Courson? Parce que les gens vous positionnent, parce que de toute façon, les gens, ils attendent pas votre autorisation. Les gens, ils vous mettent à droite, ils vous mettent au centre, ils vous mettent trop à gauche pour certains. Bon, allez, ok. Mais vous, Charles de Courson, comment vous vous positionnez? Voilà, c'était ça la question que je lui ai posée. Il y a eu beaucoup d'embrouilles au sein du NPA. Résumer le départ de RP du NPA à juste le communauté d'Anas, c'est réducteur. Ah, mais moi, j'en vois que ce que les acteurs veulent bien m'en donner, hein. Je te rappelle que j'ai invité Olivier Besancenot sur mon plateau et qu'il a refusé de répondre à ma question. Donc, il y a un moment, c'est-à-dire, si le NPA veut pas parler, je vais pas vous forcer. Et oui, il s'est passé 1 milliard de dingueries au sein du NPA. C'est le problème du NPA. Enfin, c'est pas le mien. Un politique qui n'a jamais exercé d'autre métier peut-il vraiment être de gauche? Pour la millième fois, je refuse d'être un baromètre ou un juge ou un arbitre de ce qui est être vraiment de gauche, être vraiment de droite. C'est pas ma responsabilité. C'est à toi de décider, c'est à toi de me dire ce que toi t'en penses. Je sais pas, c'est toi qui vois. Tu positionnes les gens là où tu veux les mettre, tu organises tout ça. Mais je ne suis pas un baromètre politique. Et il n'y a pas, il n'existe pas, il n'existera jamais de définition officielle de la droite, de la gauche. Un truc qui fait consensus parmi les scientifiques et tout. Voilà. Et c'est pour ça que je préfère que vous me disiez ce que vous vous mettez dans droite ou gauche. Moi, on s'en branle. Enfin, je veux dire, c'est pas très important. La droite n'a pas de problème de débat idéologique, ils n'ont pas à définir leur ligne politique, ils ont le statu quo économique. C'est plus compliqué que ça. Je vois ce que tu veux dire, je comprends ce que tu veux dire, c'est un point de vue de gauche d'ailleurs, sur la droite. Mais la droite, elle s'organise avec des termes qui sont radicalement différents de ceux que pense la gauche. Voilà. Notamment la structuration d'une idéologie, d'un système un peu bien organisé là. C'est pas tout à fait le truc de la droite qui préfère se définir en relation avec des valeurs. C'est pas tout à fait la même chose. Et par ailleurs, sur le statu quo économique, c'est pas tout à fait vrai, hein, ça dépend de la droite. Il y a quand même pas mal de gens à droite qui sont pour des réformes économiques assez ambitieuses. Très très bon épisode de Enquête de politique sur la droite. Thomas Legrand, le journaliste de France Inter, a fait un épisode de son émission où il explore la pensée de droite à l'occasion de la nomination de Michel Barnier, du gouvernement Barnier, pardon. Super épisode avec des chercheurs, avec des historiens de la droite qui revenaient un peu là-dessus. Ils se départagent sur les valeurs, mais je trouve qu'il y a quand même une continuité dans l'idéologie économique. Eh ben non, c'est même l'inverse. Droite et extrême droite ont fini par fusionner sur les valeurs, en l'occurrence la lutte contre l'immigration, etc. Ça, c'est un truc qui est devenu commun au LR et au RN. En revanche, ils s'opposent frontalement sur les questions économiques. Le RN est beaucoup plus interventionniste que LR. L'abrogation de la réforme des retraites, par exemple, ça emmerde beaucoup Éric Ciotti. Éric Ciotti, qui a quand même plaidé, je vous rappelle, à l'époque, pour la retraite à 67 ans, qui se retrouve aujourd'hui allié d'un parti qui veut abroger la réforme des retraites pour revenir à 62 ans. Faut se rappeler l'époque où Marine Le Pen était super libérale. Alors, par ailleurs, tu as parfaitement raison, le Rassemblement National, historiquement, c'est un caméléon sur les questions économiques. Jean-Marie Le Pen a défendu des thèses très différentes au fur et à mesure de sa vie. Il y avait un moment où il était un peu poujadiste, petit patron, lutte contre la mondialisation, le libéralisme économique qui nous écrase, la méchante Union européenne, etc. À d'autres moments, il a été dans la vague très libérale des années 80, anti-gauche, contre les syndicats, contre ses lourdeurs administratives, etc. Donc, voilà. Et Marine Le Pen, je suis d'accord avec toi, Marine Le Pen, en fonction de l'année à laquelle tu lui poses la question, elle ne te répond pas la même chose. Et ça, c'est un truc qu'il ne faut jamais oublier, effectivement, avec le RN, c'est que... À une époque, ils veulent sortir de l'Union européenne et de l'euro. À une autre époque, ils veulent rester dans l'Union européenne et faire comme Mélanie. C'est vraiment un caméléon, le RN. Mais parce que le RN, de toutes les manières, les questions économiques sont pas centrales. Alors, attention. Les questions économiques sont devenues centrales dans le discours du RN, mais dans la structuration politique, c'est un parti anti-immigré. Les questions économiques, c'est relativement secondaire, dans le sens où on peut changer d'avis. C'est pas très grave. Voilà. Le fond idéologique, le fond de la pensée, le fond de la doctrine, le fond de l'idée RN, c'est la préservation de la culture par la lutte contre l'immigration. Le reste, on voit un peu ce qui vient. L'identité nationale, voilà exactement, l'identité nationale. Le reste, bon, on voit, ça dépend. Je capte pas ses arguments. Mélenchon dit lui-même qu'il est évolutif, par exemple, qui ne l'est pas. Mélenchon aussi a évolué sur plein de trucs. Par exemple, sur la question de savoir s'il faut faire alliance avec le PS, par exemple. Mais parce que Mélenchon est un tacticien, c'est pas seulement un doctrinaire. Par ailleurs, oui, de la même manière, Jean-Luc Mélenchon a lui aussi évolué sur des thèmes qui ne sont pas centraux dans la pensée qu'il a. Sur le fond, Jean-Luc Mélenchon, il a pas beaucoup changé d'avis. Hein. C'est un homme de la gauche du Parti Socialiste. Il l'a été toute sa vie, il l'est encore aujourd'hui. Il est plus interventionniste économiquement, il propose une rupture avec les dogmes économiques néolibéraux de l'Union européenne, etc. Ça, il a toujours été, enfin, toujours, attention. Bon, en 1992, il était pour, maintenant il est contre. Mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Sur d'autres trucs, par contre, ça peut évoluer. Il a évolué sur la question du voile, par exemple. Ouais, voilà, par exemple. J'aimerais bien qu'on évoque la question de l'identité nationale. Pourquoi nous, à gauche, on délaisse cet enjeu qui est, selon moi, au XXIe siècle, central? On le voit bien qu'il y a une crise de l'identité qui a des conséquences, mais surtout positives, mais surtout négatives, et très égoïste et qui exacerbe les nationalismes. Parce que la gauche française, dans son fondement historique, elle est matérialiste. Alors, elle est aussi républicaine. Mais la République, c'est pas une identité. La République, c'est une mécanique et c'est la préservation des droits. Mais la gauche, elle est matérialiste. Elle rejette l'idée de voir le peuple comme une cohérence ethnique ou culturelle. Le matérialisme marxiste se définit par la prise en considération des conditions matérielles, et seulement elles. Ce sont les conditions matérielles qui définissent la position dans le champ social d'une personne. Soit tu es un capitaliste, soit tu es un prolétaire. Tu n'as que ta force de travail. On se fout de ta couleur de peau, on se fout de ta culture, on se fout de ta langue, etc. C'est un point de vue. Ça s'appelle le matérialisme historique. C'est un point de vue qui est partagé par une bonne partie de la gauche. La race est une condition matérielle. Non. Non. Condition matérielle, c'est le revenu, hein. C'est la possession, c'est le patrimoine, c'est la propriété. Ça, c'est matériel. Ta religion, ta morale, ton éthique, s'en fout. Un ouvrier, c'est un ouvrier. Il est défini comme ouvrier par la place qu'il a dans l'entreprise. Pourtant, le contrat social n'est ni de gauche ni de droite. Et parce que gauche et droite ne partagent pas la même vision du contrat social. D'ailleurs, le contrat social, ça n'existe pas. Il y a des contrats sociaux, il y a des manières d'envisager la société. C'est très manichéen quand même. Ah bah c'est matérialisme marxiste, si vous êtes des puristes, vous êtes chez Lutte Ouvrière et effectivement c'est assez manichéen. Hein. on va pas se mentir, hein, c'est un peu manichéen, hein, une pensée de gauche qui est un peu... Donc ça c'est la vision très class first, mais dans la deuxième moitié du XXe siècle, la gauche a aussi embrassé tout un tas de luttes d'émancipation nouvelles qui sont venues changer un peu son logiciel. Notamment les luttes pour les droits civiques, la décolonisation, le féminisme et les questions LGBTQIA+. Et ça, c'est venu un petit peu casser ce manichéisme effectivement un peu débile, marxiste, classique, à l'ancienne, by the book, etc., pour venir apporter une autre lecture des rapports de force et des rapports de domination. Alors du coup, tu retrouves la logique de domination, et c'est ça qui fait que tu peux avoir une intersectionnalité dans le fait qu'il y a domination économique, il y a domination patriarcale, par exemple, pour prendre le cas du féminisme, et donc tu retrouves ce qu'on appelle l'intersectionnalité, la possibilité d'avoir plusieurs luttes, plusieurs visages d'une même domination. La nation et l'identité nationale ont bien été une notion de gauche au moment de la Révolution française jusqu'à la fin du XIXe siècle. Ça, tu fais référence à la nation. Mais oui, la nation est une construction de gauche, historiquement. Elle a toujours été. Sous la Révolution française, la nation, c'est ce qu'explique Jean-Luc Mélenchon quand il parle de la Révolution française et du fait que la nation française n'est pas une nation ethnique, n'est pas une nation religieuse. La nation française est une nation politique. Et c'est sa spécificité. Français, c'est pas une couleur de peau. Français, c'est pas une religion. Français, c'est des droits. Voilà, c'est ça. Une définition de la République par les droits. Ça, c'est une vision de gauche, celle défendue par Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen est radicalement en désaccord avec ça. Complètement en désaccord avec ça. La nationalité, c'est d'abord un héritage, une culture, une langue et une cohérence ethnique. Alors, elle n'utilise pas le mot ethnique parce que c'est raciste, mais dans l'idée, la nation, pour l'extrême droite, c'est une construction socio-ethnique, ethno-culturelle plutôt, dans laquelle on est en cohérence ou pas. Éric Zemmour n'a aucun problème à dire dans un micro que l'islam est incompatible avec la République. Parce que l'idée que lui se fait de la République n'a rien à voir avec la République vue par Jean-Luc Mélenchon. Lui, c'est un truc ethnoculturel. C'est un truc de blanc et de chrétien. Mmh. Comment peut-on rendre les cons moins cons pour rétablir l'harmonie et l'humanité à l'échelle planétaire? Eh ben, bon courage, à toi de me dire. Un Français, c'est quelqu'un qui respecte le droit français, peu importe ses origines ou son statut social ou sa religion. Oui, mais t'es pas départi de ta nationalité dès lors que tu es condamné pour infraction. Arrêtez de partir du principe que ce sont les autres qui sont cons, c'est déjà un bon début. C'est vrai. Est-ce que ce serait pas mieux pour la France que le peuple élise des partis par ministère? Non. Ben non, tu peux pas départir l'action gouvernementale de sa cohérence. C'est-à-dire, tu peux pas avoir un ministre qui mène une politique de l'offre et un autre ministre qui mène une politique de la demande. C'est pas possible. Donc non, je suis pas d'accord. Le gouvernement, les ministères, on s'en branle. L'important, c'est l'action gouvernementale. Il faut qu'elle ait une cohérence, quelle que soit sa cohérence. Je peux ne pas être d'accord avec la direction, mais je comprends l'importance d'avoir une cohérence d'action. Pourtant, on a Retailleau et Migaud dans le même gouvernement. Eh, c'est surprenant, hein? Mais Retailleau et Migaud sont placés sous l'arbitrage du Premier ministre. D'où l'importance du Premier ministre. Je vous en parle à chaque fois, c'est hyper important. Parce que par son arbitrage, il peut mettre fin au débat. Bruno Retailleau a annoncé sa volonté de donner naissance à une nouvelle loi immigration. Très bien. On verra ce que Didier Migaud dira dans les travaux préparatoires de cette nouvelle loi. Et voilà. Et ce sera sous l'arbitrage de Michel Barnier. Bonjour, sortez vos sous des banques et all in Bitcoin. D'accord. C'est noté, merci. C'est qui Migaud? C'est le ministre de la Justice. Comment la gauche peut retrouver l'électorat des classes moyennes et des zones rurales? Eh bien écoute, c'est une très bonne question que tu poses, et c'est une question qui est au cœur des réflexions actuellement. François Ruffin a écrit un livre sur le sujet. Jean-Luc Mélenchon a une autre stratégie. François Hollande veut tenter quelque chose également. Non, il y a du monde qui est sur le coup pour répondre à la question que tu poses. À quand une crypto-monnaie backseat? Oh l'enfer! Plutôt mourir. Pas de backseat ce soir? Non, pas de backseat ce soir. Bah non, on vous a fait un backseat Maxi Best-of mardi. Oh, bah. Après, vous allez me dire c'est trop. Je suis sûr, je vous connais, vous allez dire c'est trop. Jean, tu fais trop d'émissions de trop bonne qualité, t'es chiant, il y en a marre. On peut pas se reposer. Ça fait 2 ans que j'ai pas vu ma femme. Mes enfants ont grandi sans que je le voie. Voilà. Non, je vous connais, vous avez... Je l'ai trouvé un peu court. Tu veux encore faire Paul and Chill ou t'as arrêté? J'ai arrêté Paul and Chill. Ça m'a coûté beaucoup trop cher, pour ne rien vous cacher. J'ai pas été très satisfait du résultat, donc pour l'instant je garde ça de côté. On verra si un jour ça redevient quelque chose, mais. Est-ce que tu penses qu'il faudrait rallonger la durée des mandats pour éviter que les gouvernements fassent de la politique court-termiste pour être réélus? C'est intéressant ce que tu dis, c'est une réflexion intéressante. Je ne suis pas pour l'allongement des mandats. Je suis par contre pour que la question du temps long soit mieux prise en compte avec un travail du CESE. La question du temps long est une question importante, notamment dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Mais je ne suis pas pour la réduction des mandats parce que je préfère qu'on puisse voter plus régulièrement, quoi. C'était quoi Paul and Chill ? Paul and Chill, c'était une tentative il y a plus d'un an et demi, une tentative que j'ai eue d'organiser un festival politique en direct sur Twitch, et donc on a fait une journée d'émission et tout, c'était trop bien. Qu'est-ce que tu penses d'une proposition de faire une assemblée constituante pour adapter les règles du jeu politique et décoincer la République de la situation des trois blocs à l'Assemblée? Ah mais moi je suis giga favorable à une assemblée constituante. Par contre, je ne crois pas que ça va décoincer la situation des trois blocs. La situation des trois blocs, c'est vous qui la décidez avec vos bulletins de vote. C'est important le vote, comme ça le parti qui arrive en tête, il... Oups. Eh oui, le parti qui arrive en tête n'a pas forcément gagné les élections. Ça a toujours été vrai. Bon. Est-ce que la gauche a des enseignements à tirer de la déroute des démocrates aux US? Bah écoute, c'est une bonne question, c'est pas à moi de le dire. J'ai vu que Jean-Luc Mélenchon a réagi en disant que, grosso modo, son analyse, c'était que la défaite de Kamala Harris, c'était qu'elle n'était pas assez radicale et qu'il fallait une gauche, radicale pour gagner les élections. C'est gonflé de sa part, mais admettons. Et j'ai vu que Bernie Sanders, lui, est beaucoup plus proche de François Ruffin, qui a dit que le Parti démocrate avait perdu parce qu'il avait perdu les classes ouvrières américaines, les travailleurs, etc. Donc tu vois que les débats à gauche aux États-Unis sont à peu près similaires aux nôtres, finalement. Tu penses quoi du principe de démocratie non partisane? J'y suis fortement opposé. Je vois pas pourquoi on empêcherait les gens de former des associations politiques. La radicalité, c'est la pire idée pour gagner une élection, mais vu que ça n'est pas le but de Mélenchon, ça lui va bien. C'est plus facile d'être opposant. Ah, tu penses que Mélenchon ne souhaite pas particulièrement exercer le pouvoir? Il préfère la posture d'opposant? Je sais pas si je suis d'accord avec toi, je pense pas. Je pense qu'il veut, gagner les élections. Il n'y arrive pas, mais il veut. Je le crois sincère dans sa volonté de gagner les présidentielles. Tu penses quoi de faire des élections à un tour pour favoriser les alliances? Bah, c'est les proportionnelles intégrales à un tour, comme les européennes par exemple. J'en sais rien, faut que ça se réfléchisse. Pour toi, l'équivalent de Kamala en France, c'est qui en termes de programme? Personne. Personne. On ne peut pas transposer mécaniquement des camps d'un pays à l'autre. Kamala Harris, en France, je suis incapable de dire qu'est-ce qu'elle proposerait. Ça n'a pas de sens. Elle n'est pas française, elle propose rien pour la France, ni pour les Français. C'est incomparable. Oui, voilà, c'est ça, c'est incomparable. La question fait sens, je trouve. Il peut y avoir un rapprochement plus qu'un autre. Mais je te réponds, je suis totalement incapable de te dire de qui Kamala Harris se rapproche dans la vie politique française de l'année 2024 après Jésus-Christ. Je ne sais pas. C'est comme si tu me demandais Xi Jinping. Xi Jinping, il se rapproche de qui en France? Ça n'a pas de sens. La question n'a pas de sens. Donc, voilà. Parfois, il y a des similarités entre pays, mais les USA, c'est bien trop éloigné. Oui, de ce point de vue-là, oui, c'est un pays occidental, nous aussi, c'est une démocratie représentative, nous aussi. Tu peux avoir des rapprochements, ouais, mais... Donc Trump, c'est pas pareil que Le Pen? Non, c'est pas exactement pareil que Le Pen. Ils ont des similarités sur les questions migratoires, par exemple. Ils ont potentiellement des similarités dans les attaques contre la démocratie, même si Marine Le Pen n'a jamais été au pouvoir, à la différence de Donald Trump. Donc, oui, tu peux retrouver, effectivement, je suis d'accord avec vous, on peut retrouver des similarités. Mais une fois qu'on a dit ça... Le Pen ne parle pas d'ennemis de l'intérieur. Oui, Le Pen, alors Marine Le Pen, à la différence de son père, a considérablement lissé l'image de son parti politique pour le rendre bien plus présentable. Et elle a notamment rompu avec le vocabulaire, la radicalité des mots qui étaient utilisés par son père, qui était très provoque. Donald Trump est très provoque. Mais bon, oui, c'est une rupture de style. Ça, je vous l'accorde, c'est une rupture de style. Marine Le... Ah ouais. Ah, carrément, 17h25, premier coup de perceuse de la journée. D'accord. C'est bon? Tu peux parler? Ça m'a l'air bon. J'étais en train de dire quoi? Oui, Marine Le Pen est... Ça va arrêter d'être drôle assez vite. Ça va commencer à m'énerver. Marine Le Pen essaye de rentrer dans un système politique dont elle était jusque-là outsider. Donald Trump, lui, cultive le caractère outsider en dénonçant le système politique en permanence. C'est ça que je voulais dire. Donc, vous voyez, là aussi, c'est pas tout à fait pareil. Il y a déjà eu de la perceuse au début du stream. Ah bon? On se souvient pas. C'est possible. À quand une émote perceuse? Oh, j'avoue. Bah, faut que j'en trouve une. Oh mon dieu. Je sais pas où c'est les emotes. Faut que je vous en trouve une. Je vais vous trouver une emote perceuse, je vais faire ça. J'en ai. Attendez. Je vais vous laisser avec Bitsy. Il faut que j'aille aux toilettes. Je vais vous laisser avec Bitsy, je reviens. Qu'est-ce que... Il est mort? Il est mort? Attends, t'es sérieux? Quoi, il s'arrête tout seul? S'il détecte pas de mouvement, il s'arrête tout seul? Ou il y a déjà plus de piles? Ça doit être une sécurité, effectivement, s'il n'y a pas de mouvement. Désolé, hein. Il a duré un peu et puis éteint. J'ai dit que ça piquait les yeux sans clignotement. Quelle est l'importance de Twitter dans la victoire de Trump et la montée du camp conservateur, selon toi? Selon moi, j'en sais rien. Je ne sais pas et je m'interroge. Je suis comme toi. J'aimerais bien savoir combien d'Américains utilisent Twitter, combien d'Américains vont sur Twitter, tous les combien, et quel impact ça a pu avoir dans l'élection. Je pense qu'on a besoin de l'objectiver, ça. Il faut qu'on l'objective, ce truc-là. Est-ce que les carrières sont un problème de politique? En politique? Oui, moi j'aimerais bien qu'il y ait plus de renouvellement. Alors il y en a plus hein, depuis 2017, mine de rien. Il y a eu quand même une nouvelle vague assez impressionnante avec les macronistes qui sont arrivés. Mais ça s'est aussi pas mal renouvelé à gauche, à droite aussi d'ailleurs. Donc voilà, oui, mais j'aimerais bien qu'il y ait plus de renouvellement. J'ai lu dans Libération et CNN que Twitter était complètement mort, je comprends rien. Alors ça, c'est peut-être la santé économique de Twitter. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est l'influence qu'a eu Twitter dans l'élection américaine. C'est ça qui m'interroge. Moi, j'aimerais plus de professionnels, moins de politiciens. Ah bah vous voyez, vous n'êtes pas d'accord tous les deux. Si on veut bien du renouvellement, mais du compétent si possible la prochaine fois. Ah, mais les macronistes sont parfaitement compétents, hein, pour appliquer la politique macroniste. Ils sont très compétents. C'est leur boulot, d'ailleurs. J'ai dû de nouveau delete mon compte Twitter. Après un an, j'étais devenu dépressif. La bulle qu'elle crée est terrible. T'as vu, c'est violent, hein? Twitter, c'est impressionnant, hein. Ça ravage les gens, putain. Est-ce que Retailleau a réellement interdit les tifos dans les stades? Non, Bruno Retailleau a tweeté pour faire part de sa désapprobation et de son agacement à l'occasion d'un tifo des ultras du PSG, si je ne dis pas de bêtises, qui montrait la solidarité avec les Palestiniens. Voilà, le ministre de l'Intérieur, il a dit, bouh, pas de politique dans les stades, c'est pas bien. Ça n'ira nulle part. Le sport, c'est pas la politique, on a dit. Non, mais voilà, c'est ça, ce genre de truc. Arrêtez de faire de la politique dans le sport. Il y a toujours eu de la politique dans tous les sports. C'est dans toute l'histoire du monde. Est-ce qu'il a la possibilité de le faire? Je trouve ça curieux. Je ne crois pas que le ministre de l'Intérieur ait la possibilité d'empêcher les supporters de foot d'arborer des tifos. Ou alors il faudrait qu'ils prennent un règlement particulier dans le cadre de l'organisation des rencontres sportives, etc. Ça me paraît difficile. Ça me paraît difficile à voir s'il a les moyens politiques de le faire. Et puis surtout, la question de l'opportunité est importante parce que s'il s'engueule avec tous les supporters de foot du pays. Compliqué, hein. C'est un peu plus complexe que ça. Le tifo appelait à la disparition d'Israël et pas à la paix. Ah bon? On n'a pas vu le même alors. Moi j'ai vu un. Moi j'ai vu Free Palestine. Il y avait écrit autre chose. En bas, il y a écrit la guerre sur le terrain, mais la paix dans le monde. Non? Non, je sais pas. Non, j'ai pas envie de me tromper. Hein. Si j'ai une connerie, c'est important, mais... Non, non, pardon, je me suis trompé de bouton, excusez-moi. Moi, je vois Free Palestine. Je vois le Liban, le drapeau du Liban, le drapeau palestinien derrière. Ça, c'est la mosquée d'Al-Aqsa. Et là, je vois écrit la guerre sur le terrain, mais la paix dans le monde, avec une truc, une colombe de la paix. Et le I de Palestine, c'est quoi? C'est un flambeau, je sais pas. Non, non, s'il y a un giga truc antisémite dessus, faut me le dire, mais moi j'en vois pas là tout de suite, spontanément. C'est un truc de. la carte d'Israël avec un motif de kafta. Ah, c'est la carte de la Palestine, ça? Le I, c'est la carte de... Ah oui, c'est la carte de la Palestine qui descend jusque-là, d'accord. Ah, et du coup, le fait qu'Israël n'apparaisse pas dessus est vu comme une volonté hégémonique antisémite de supprimer Israël. D'accord. Non, c'est pas que Gaza, c'est pas que Gaza. Gaza, c'est la bande qui est ici, mais ça, c'est l'ensemble de la Palestine. C'est antisémite d'afficher un État palestinien. Non, mais c'est effectivement problématique de supprimer totalement Israël de la carte. Mais ok, d'accord. Et donc c'est ça qui fait polémique, c'est le fait que la carte de la Palestine ne représente pas l'État d'Israël. D'accord. Sauf si c'est un État unique. Sauf si c'est un État unique, oui, évidemment. Mais il n'y a pas grand monde qui demande un État unique. État unique. Et si la carte de France ne représente pas Israël, c'est antisémite? De quoi? Si la carte... Excuse-moi, je suis fatigué, mais... Si la carte de France ne représente pas Israël, est-ce que c'est antisémite? Tu t'es fait un claquage aux neurones. J'ai du mal à... Ouais, non, j'y arrive plus. Annoncer le changement de coach, ce sont les ligaments. La gueule de bois est dure. Non, 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 c'est compliqué. Ça, clairement, c'est compliqué. Et si on rigole pas ici. Donc oui, non, tout ça pour dire que je ne vois pas pourquoi le ministre de l'Intérieur pourrait prendre des mesures qui limiteraient la possibilité pour les supporters de secouer des drapeaux, quelle que soit leur taille. Ça me paraît rock'n'roll. J'ai cru comprendre... Mais je vous avoue que j'ai pas beaucoup investigué. J'ai cru comprendre que le ministre de l'Intérieur avait demandé aux autorités sportives compétentes, alors je sais pas si c'est l'UEFA, c'est la Fédération française, je sais pas, de prendre des mesures. Trop content d'avoir vu Léa et Sacha mardi soir. Ouais, c'était cool. C'était un match européen donc géré par l'UEFA, il s'est prononcé aujourd'hui. Ouais, j'ai vu, l'UEFA ne sanctionnera pas ce tifo. J'ai vu ça. Ils inventent l'antisémitisme pour n'importe quoi. En quoi la carte de la Palestine devrait mentionner Israël? Israël ne mentionne pas la Palestine sur leur carte. Mais du coup, c'est pas un argument. C'est un problème qu'Israël ne mentionne pas la Palestine sur ses cartes. On est d'accord? Du coup. En fait, Retailleau, c'est un manager toxique. Il ne fait rien, mais il tombe sur quelqu'un en lui balançant n'importe quelle demande absurde. La Palestine, c'est une région géographique, pas un État. Ça pourrait le devenir. C'est-à-dire que l'on ne peut absolument pas mentionner la Palestine sans mentionner Israël, sinon on est antisémite. Non, mais je crois que vous vous faites du mal, hein, à essayer de faire des argumentations par l'absurde. Si tu fais une carte dans la péninsule ibérique en disant que c'est le Portugal, c'est un problème. Ah putain! Est-ce que tu joues à LoL? Non. Non, non, ça fait 1000 ans que j'ai pas joué à LoL. Fait que je vais remettre un jour. C'est un peu loin, Milan, pour aller jouer à LoL. Non, mais c'est vrai. C'est toi qui vas te faire du mal à jouer à LoL. Mais non, mais je sais pas. Je m'y remettrai peut-être un jour. Mais moi, je faisais surtout des ARAM. J'aime bien les ARAM. Les trucs qui me plaisent le plus, c'est les ARAM. Le reste, je sais pas. Je suis pas forcément un grand fan. Non, il y a un truc qu'il faut qu'on fasse ce week-end par contre. Il faut qu'on vole ensemble sur Flight Simulator, sur l'Airbus A380. Il y a une nouvelle map pour la RAM? Non. Sérieux? Pour Arcane, oh trop bien. Donc ouais, donc ce week-end on va essayer de voler sur la 380. Il faut encore que je prenne le temps de lire la documentation. Elle est en anglais, elle est longue. Ça va être compliqué. Mais il faut que je fasse ça, ouais. J'ai la 380, je l'ai téléchargée, je l'ai essayé, il marche bien. Dans 12 jours, il y a Flight Simulator 2024 qui sort. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ça rapporte l'argent de Twitch. On peut acheter des A380. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ça fait beaucoup. À ce propos, je vais m'arrêter là, les amis. Il est quelle heure? Il est 6h moins le quart, ça me paraît bien. Merci d'avoir été avec moi, c'était chouette. Je vous fais des bisous. Je vous retrouve demain après-midi, je ne sais pas encore à quelle heure. On verra. Merci d'avoir été là, c'était cool. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde, ciao, bye bye. Au revoir. Merci les copains.